Aujourd'hui, à 100 commentaires ou presque, on met le cap vers le Japon pour assister au combat spectaculaire entre Godzilla et trois autres monstres géants. C'est le temps de faire vos paris pour prédire le gagnant, tout en faisant très attention à ne pas vous faire piétiner par ces gigantesques créatures en caoutchouc. Salut tout le monde, je m'appelle Sébastien Bourget et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de 100 commentaires ou presque, votre podcast pour cinéphiles. Depuis le milieu des années 50, le cinéma japonais a produit une trentaine de longs métrages de son célèbre lézard atomique géant dans lesquels il a été utilisé à toutes les sauces. Tantôt destructeur, tantôt allié de l'humanité et parfois même l'ami des enfants, Godzilla a eu droit à quelques réinventions de l'origine et du concept de son personnage au cours des dernières décennies. L'une des plus mémorables à ce jour est survenue en 2001, lorsque les studios Toho et le réalisateur Shusuke Kaneko ont pris le pari de produire un nouveau film plus mature et sérieux, se rapprochant beaucoup plus d'un retour aux sources pour refaire de Godzilla une créature terrifiante qui n'existe que pour éradiquer la race humaine. Notre seul espoir de survie est un petit groupe d'humains courageux qui sera épaulé par trois kaijus qui ont eu des affrontements grandioses contre Godzilla par le passé. Tous les artisans devant et derrière la caméra ont mis leur créativité à l'œuvre dans le but de redonner un nouveau souffle à cette série de films connaissant un certain déclin. Quelques mois plus tard, Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack a pris tous les spectateurs par surprise en leur offrant un film moderne, spectaculaire et divertissant qui revitalisait résolument la série tout en honorant son passé. Et ça a pas pris beaucoup de temps pour que ce nouvel opus devienne indéclassable au sommet de tous les palmarès des meilleurs films de Godzilla. En compagnie de mon invité, on va passer au peigne fin les nombreux éléments de ce long métrage qui en font un classique du genre. Mais juste avant, je vous rappelle que tous les précédents épisodes de 100 commentaires ou presque sont téléchargeables gratuitement sur SoundCloud et Balado Québec. Je vous invite aussi à venir vous abonner à notre page Facebook au facebook.com/podcastscop pour avoir droit avant tout le monde à l'annonce des sujets de nos prochains épisodes et à des extraits exclusifs avant leur sortie. Sans plus attendre, débutons pour vrai notre épisode d'aujourd'hui. Le film Godzilla, Mothra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. L'année 2001. Réalisé par Shusuke Kaneko et mettant en vedette Chiharu Niyama, qui interprète son rôle avec héroïsme et courage. Ainsi que Ryodo Uzaki, qui avait un peu de temps libre devant lui pour tourner ce film pendant l'enregistrement d'un de ses nombreux albums de musique rock. Chers auditeurs, on est de retour et comme d'habitude, ben on est prêt à passer à l'action et de notre côté, on est prêt, moi et mon invité, à geeker solide. Qui est mon invité? Ben là, c'est le temps que je vous révèle qui il est. Un petit indice, ben pour ceux qui me suivent depuis les 4 dernières années, voire 5 à l'animation du podcast de la revue Clair Obscur, ben c'est un gars que vous avez souvent entendu avec moi, c'est-à-dire 4 fois au minimum dans différents épisodes que j'ai animés. Il a toujours fait une excellente job et ben maintenant, je suis allé le chercher. Ce gars-là, pour moi, c'est un genre d'outil de précision qui en connaît énormément sur beaucoup de sujets et il en connaît énormément sur le sujet du film sur lequel on va parler aujourd'hui. J'ai nommé Frédéric Lefebvre. Comment vas-tu, Fred?
Super bien, merci de m'avoir invité, Seb.
En fait, je te souhaite encore une fois la bienvenue derrière mes micros et la bienvenue pour une première fois à 100 commentaires ou presque.
Bien excité.
Ouais, on sent l'excitation dans ta voix, c'était écœurant, mon vieux. On y va, GMK aujourd'hui, Godzilla, Mothra, King Ghidorah, Giant Monster, All Out Attack. Quel film excellent. Oui, quel long titre exactement. Puis je pense que c'est le plus long de la série des 28 films de Godzilla. Donc écoute,
tu vas pas essayer de le dire en japonais aussi?
J'essaie d'arrêter. Malheureusement, la personne que je voulais pour faire la traduction japonaise, malheureusement, elle n'est pas en ville, j'y pensais.
Je me suis marqué ici, si vous voulez entendre. C'est Godzilla, Mothra, Kingu, Ghidorah, Dakaju, Soga.
Ton japonais est excellent. Il y a même pas d'accent en plus, c'est ça qui est bien. Écoute, je casse la glace tout de suite avec toi, Fred. Moi, je sais que t'es un amateur depuis qu'on se connaît de films de kaiju, de films de monstres de Tutankhamun et principalement de films de Godzilla dans le fond. Alors, ce que je voudrais que tu me racontes in extenso à nos auditeurs aussi, c'est d'où vient cette passion-là spécifiquement pour les films de Godzilla. T'avais quel âge? T'es en quelle année? Quand est-ce que ça a commencé?
comme tu dis, je suis un assez gros amateur, pas juste de Godzilla, mais de monstres en général, depuis que je suis tout petit. J'avais comme 3 ans, puis déjà, ce que je faisais le plus souvent, c'était de peser sur pause quand j'écoutais un film et de redessiner le monstre que je voyais. En tout cas, tout ça pour dire que je trippais sur les monstres. Mon meilleur cartoon quand j'étais jeune, c'était la série de Inhumanoids. Je sais pas si tu t'en souviens, de Hasbro.
Ça me dit vaguement
quelque chose. C'était comme des monstres géants qui sortaient de la Terre.
Ça passait ça à YTV après les Power Rangers?
Oh, demande-moi pas quand ça. Mais c'était avant Power Rangers. C'est l'époque de G.I. Joe puis Transformers.
Ok, excellent.
Mais en tout cas, c'était comme des giant monsters, mais ça vient de là. Puis plus tard, j'ai vu mon premier Godzilla, qui était le retour de Godzilla, ou mieux connu sous le titre, je pense, de Godzilla 85.
Okay, oui.
En fait, il est sorti en 84 au Japon, mais aux États-Unis, c'est sorti en 85.
Oui, d'où le titre du Godzilla 1985.
Qui est un peu mélangeant, mais c'était ça. Puis il y avait des scènes rajoutées américaines avec Raymond Burr.
Oui, qui avait ramené du premier film de Godzilla qui était adapté pour le public américain, c'est ça?
Exact. Fait que c'était quand même assez cool. Puis moi, j'ai vu ce film-là quand j'avais peut-être 5 ans. Dans la même époque que j'avais vu King Kong de Laurentis, Dino de Laurentis. Puis pour moi, c'était ça, King Kong et Godzilla. Et je me rappelle, j'ai seulement vu une seule fois ce film-là de Godzilla, mais à la fin, spoiler alert pour ceux qui l'ont pas vu, mais à la fin du film, Godzilla tombe dans un volcan et supposément va mourir. Quand j'avais été voir mon père à l'époque, je comprenais pas pourquoi Godzilla était tombé dans un volcan, il s'était jeté par lui-même dans le film. Puis mon père m'avait dit, en fait, Frédéric, c'est parce que Godzilla est tellement grand, il voit pas les humains qui marchent dessus. Pour lui, c'est comme des fourmis pour les humains. Et il était tellement triste qu'il s'est tué à la fin, qu'il s'est jeté dans un volcan, qu'il a réalisé ce qu'il faisait.
T'as pas doré à pilule, ton père,
c'était...
là.
Mon père avait même pas vu le film. Mon père avait même pas vu le film, mais c'était comment il me l'avait expliqué à l'époque. Il s'en souvient même pas, que j'avais raconté récemment. Puis pour moi, ça rendait Godzilla espèce de géant monstre tragique qui s'en voulait tellement. Un grand cœur, dans le fond, qu'il y avait, puis s'était tué à la fin. J'ai revu le film, soit dit en pensant, comme 20 ans après, dans le fond. C'était pas 20 ans, mais un bon 15 ans après. Puis c'est pas vrai qu'il se tue Godzilla à la fin. Il est contrôlé par les humains qui envoient une onde pour attirer les oiseaux, puis Godzilla suit les oiseaux, puis tombe à la fin dans le volcan. Puis il meurt pas parce qu'il est invincible. Une explication un peu bidon, on s'entend, là. Mais les Japonais étaient forts là-dessus. Fait que c'était mon premier film de Godzilla, et je l'ai pas revu. Quelques années plus tard, dans le fond, moi j'étais déjà allé au vidéoclub, puis à chaque fois que je voyais des VHS de monstres, je disais à mes parents, je veux louer ça, je veux louer ça. Peu importe le film. S'il y avait un monstre sur une pochette, je voulais voir ce film-là. Puis je me rappellerai toujours le film ultime que j'avais vu au vidéo, que j'ai jamais écouté à l'époque. En haut, sur l'étagère la plus haute, c'était au vidéo Novatech, pour ceux que ça leur dit quelque chose. Il y avait la couverture de King Kong contre Godzilla. Et j'avais seulement vu Godzilla, la version 85, comme je dis, puis King Kong de $6, mais déjà, j'avais les deux figurines chez moi de King Kong Godzilla, et c'était les deux monstres les plus ultimes côté grosseur, là. Mes parents n'avaient pas voulu le louer parce qu'ils ont dit c'est pourri, ce film-là, même si moi, ma tête, c'était le plus grand film. Puis celui-là aussi a pris 15 ans, mais tiens, celui-là, puis l'autre film d'avant, c'est que je l'ai pas vu du tout, puis ça a pris 15 ans avant que je le vois, mais pendant 15 ans, c'est devenu cette espèce de symbole-là. Le Holy Grail, le Saint Graal des films.
Ouais.
Le plus grand film de tous les temps. Puis finalement, quand je l'ai vu, c'était le plus grand film de tous les temps.
L'attente a valu la peine. Là,
pour moi, 95% du monde, non, excuse-moi, 99,9% du monde te dirait que l'attente n'aurait pas valu la peine, mais dans mon cas, juste le titre dit que c'est le plus grand film jamais fait, parce que dans le titre, ça dit King Kong contre Godzilla. Juste ça, ça s'est posé.
L'imagination travaille hein, sur toutes les possibilités qui peuvent se passer dans ce film-là, là, c'est assez solide, honnêtement.
Fait que c'est un peu ça quand, dans mon enfance, puis après ça, c'était en 98, quand je suis allé voir, super excité, le nouveau film de Roland Emmerich, qui était Godzilla.
J'étais tout aussi excité que toi à l'époque, fait que je sais c'est quoi ce hype-là.
Le marketing était gros quand même, là, je me rappelle, Think Big, c'est quoi là?
Son pied est aussi gros que cet autobus, tu sais, genre les panneaux publicitaires qu'il y avait sur les bus, là, dans le métro, là.
Mais pour nous autres, je sais pas pour toi, mais je vais te faire raconter après ton histoire de comment est-ce que tu as connu Godzilla.
Il y a des très grandes
mais
choses.
Je vais te laisser après. Mais pour moi, Godzilla avant ça, dans le fond, ça remontait à très loin. Fait que mon souvenir, dans ma tête, Godzilla était pas nécessairement japonais. Je savais pas que Godzilla était japonais, un peu comme je savais pas que Nintendo était japonais, que Mario Bros était japonais ou Street Fighter, peu importe. Dans ma tête, Godzilla était juste Godzilla. Quand je suis allé voir au cinéma ce film-là, j'avais acheté les magazines, j'avais enregistré les annonces à la télévision. J'étais vraiment happé. Puis avant de voir le film, je m'étais dit avec un de mes amis dans le temps, si le film finit qu'il y a un bébé Godzilla qui sort dans l'écran. C'est un film de marde.
Oups.
Puis j'ai écouté le film, puis à la fin, exactement ce qu'on avait dit en riant, finalement, puis c'est un Godzilla faible qui meurt par des missiles. En tout cas, une grosse déception, puis ça a tué un peu mon trip Godzilla, je te dirais, pendant une couple d'années.
Mais quand est-ce qu'il est réapparu, ce trip-là?
GMK, qu'on va revenir
oh,
tantôt.
Oh mon Dieu!
On va revenir là-dessus tantôt, mais mon histoire va se finir là, dans le fond.
Quel excellent film pour bander une blessure, là, c'est formidable, excellent. Ben, je peux y aller avec de mon côté, un petit peu comme, enfin, au contraire de toi, quand j'étais plus jeune, jeune, mon père m'en avait loué quelques-uns au club vidéo, tu sais, de la vieille série années 60-70. Et ça m'avait pas fait grand-chose, honnêtement. J'ai très peu de souvenirs de ces visionnements-là. Je me souviens d'un autre visionnement, je pense, quand j'étais à peu près en sixième année, je suis passé au club vidéo, j'avais loué un petit programme double, deux VHS. Y en a un, c'était un film d'Ultraman des années 80 et Godzilla 85. Je me souviens parce que c'était le premier soir où j'avais mangé une pizza pochette pour la première fois de ma vie en regardant Godzilla 85. J'avais trouvé le film bien. Mon repas était dégueulasse, par contre, donc mangez jamais de pizza pochette, les enfants. Et en 98, tout comme toi, j'ai été voir la version Emmerich. Le marketing m'était rentré dedans. J'étais persuadé que ça allait être un excellent film. Exactement comme bien des gens, je suis sorti de là très déçu en me demandant ce que j'avais vu, en me disant « mais c'est pas Godzilla ça, Godzilla n'est pas invincible, il meurt, il se fait détruire, comme tu l'as mentionné, par des missiles, là il y a une passe complètement inutile de bébé Godzilla, Vélociraptor. »
Mais c'était-tu une de... on a environ le même âge, ça, oui. Me semble. C'était-tu une de tes premières vraies déceptions au cinéma? Parce que moi, ça reste dans mes premières déceptions.
Ben, je pense que c'était ma deuxième. C'était un mauvais été où est-ce que, genre, je pense l'année d'avant, j'étais allé voir Batman et Robin. Ouf. Et ça, aussi, ça commençait à m'habituer aux déceptions. Et après ça, on fait un petit saut dans le temps de quelques années, d'à peu près une dizaine d'années, où est-ce que j'étais à l'université à cette époque-là, puis depuis cette époque-là, je suis un YouTuber qui se fait connaître sous le nom du Angry Video Game Nerd. C'est un gars qui s'appelle James Rolfe. Quand il fait pas son personnage de Angry Video Game Nerd dans ses critiques de jeux, ben, il y a son channel YouTube dans lequel il va parler de films, de cinéma, de jeux, de culture pop. Et à chaque année, à l'Halloween, il fait un Monster Rotund, c'est-à-dire que pendant 31 jours, il va réaliser des petites capsules d'à peu près de 2 à 5 minutes dans lesquelles il va présenter un film d'horreur, que ce soit un classique, un film moderne, bref. Et en 2008, il a pris la même formule, mais pour l'Halloween, c'était un Godzilla-ton. Donc, il a fait une capsule pour chacun des 27 films de Godzilla et ça m'a tellement passionné que à la fin de mes cours, vu que j'étais à l'UQAM, genre je passais à la Bibliothèque nationale, puis eux autres à l'époque, il y avait une superbe collection DVD de tous les films de Godzilla de toutes les époques confondues. Écoute, je me les ai tapés comme des bonbons, j'allais m'en louer un ou deux, je m'y tapais le soir même et j'avais énormément de plaisir, peu importe si c'était un film des années 50, les deux premiers 54, 55, la version années 60, 70, 80, j'avais énormément de plaisir, même la version Millennium plus tard dans les années 2000, et tellement j'étais tellement dedans que j'ai même été refaire mon abonnement à la boîte noire parce qu'il y en avait quelques-uns que je voulais voir absolument que la Bibliothèque nationale n'avait pas, donc fallait absolument que je voie Godzilla versus Destroya. Je l'avais pas vu, fait que à la boîte noire il me manquait aussi Godzilla against Mechagodzilla, aussi la version 2002 qu'il y avait pas à la bibliothèque. J'allais me chercher là et ça a été du bonbon cette période là je pense que ça a duré peut-être 2 mois parce que je me les ai tapés en rafale. J'ai pu vraiment découvrir ceux que j'aimais pas, ceux que j'aimais beaucoup. Il y a eu quelques petits plaisirs coupables là-dedans. Et depuis ce temps-là, j'ai de très beaux souvenirs de ces petits mois-là d'université où est-ce que Godzilla était mon meilleur ami. Puis merci le Angry Video Game Nerd d'avoir m'avoir montré
c'était
ça.
C'était pas Monster Madness, c'est tout ça?
Oui, c'est le Monster Madness, exactement.
J'aimais ça.
Monster Madness, sauf qu'il a fait vraiment un Godzilla-ton cette année. Et c'est encore disponible sur YouTube. Tous les vidéos sont toujours là. Alors ça te tente, toi Fred, et nos auditeurs, d'aller voir ça. Tapez juste Godzilla-ton dans votre engin de recherche YouTube. Vous allez toutes les trouver, c'est super le fun et ça va sûrement faire exactement le même effet qu'avec moi, c'est-à-dire vous donner le goût de les regarder. Maintenant, j'enchaîne avec ma sous-question, Fred. GMK, Godzilla Mothra King Ghidorah, quand est-ce la première fois que tu l'as vu?
J'arrive, je finis mon histoire dans le fond, qui était rendu à GMK. En fait, je me suis trompé, j'avais un autre film de Godzilla avant GMK, que j'avais vu peut-être 2 ans avant. Quand j'avais été à mon club vidéo avec un de mes amis, on aimait ça louer les films pourris, généralement. Ben, films pourris, je veux dire, on louait beaucoup de films de Bruce Lee, de Chuck Norris, de films de Kung Fu, etc. C'est pas nécessairement juste des films pourris, là, mais on s'entend que le but, c'était de s'amuser, de rire. Et on avait vu qu'il y avait une mini-section de Godzilla. Il y avait Godzilla 85, mais il y avait aussi Destroy All Monsters. Il y a des gens qui le comparent aux Avengers. Moi, je le comparais plus aux Infinity Wars de l'époque, parce qu'avant, il y avait déjà eu des team-up entre Godzilla, Ghidorah, Mothra, Rodan, etc. dans les films d'avant. Mais Destroy All Monsters, c'était vraiment le film, c'était le 8e, je pense, film de la franchise, 8e ou 10e, et c'était le film que Toho avait mis le paquet parce qu'il pensait que c'était leur dernier film, puis il avait mis tous les monstres, pas juste l'univers de Godzilla, mais aussi tous les monstres des autres films de science-fiction de monstres de Toho. Donc t'avais des monstres comme Varan, t'avais je me souviens, mais il y en a tellement le film, en tout cas il y a une quinzaine de monstres quasiment, me semble. Quand j'ai loué le film, je l'ai vu au club vidéo, j'ai fait ah, c'est quoi cette affaire là, un Godzilla mais avec 20 monstres. T'sais, c'était pas juste un film de Godzilla, ça s'appelait pas Godzilla 8, ça s'appelait Destroy All Monsters. Monsters. Un peu comme si on dirait Civil War ou on dirait dans Marvel, pas nécessairement
Avengers. Ça a l'air d'être un affrontement ultime, là.
Fait que là, quand j'ai écouté le film, c'était vraiment un film cheesy à fond, c'est années 60, où est-ce qu'ils vont sur la lune tous les jours, les humains, avec des caches jaunes, vraiment BS, etc. Et j'ai trippé parce que t'avais Monster Island avec tout cet univers-là. And Mothra, and here's Godzilla, and Rodan, and the son of Godzilla.
Et Godzuki.
Godzuki, tu sais. Mais cet univers-là, justement, que j'avais jamais vu les films d'avant à l'époque, tu sais, fait que découvrir qu'il y avait un monde de tours, tu sais, Destroy Monster, en fond, était mon ouverture à cet univers-là des années 60 et 50 et 70 de Godzilla. J'avais découvert, je veux savoir c'est qui ça le fils de Godzilla, je veux savoir c'est qui ça Rodan, c'est qui ça Mothra. Mothra, c'était une larve en plus, c'était pas la Mothra en papillon. Fait que ça l'a ouvert mes yeux, un peu comme un kid, dans le fond, je pense que je devais avoir 18 ans à l'époque, un kid qui s'est dit, il y a un univers à explorer, que j'ai pas exploré directement à l'époque, parce qu'au club vidéo, il y avait seulement celle-là. Et Godzilla 2000, aussi, que je me rappelais que j'avais écouté avant de voir GMK, qui était vraiment pas très bon. Tu sais, qui était mieux quand même Godzilla 98 de Roland Emmerich. Ouais. Mais que, si tu le réécoutes, Seb, je sais pas si tu l'as vu récemment.
Ouais, ben
mais...
en fait, oui, je l'ai vu récemment. Ben l'affaire, c'est que c'est juste une réaction de Toho par rapport à la version 98 des Américains en disant, OK, on veut juste redorer le blason du vrai Godzilla qu'on a créé. Alors, immédiatement après, en 99, on fait Godzilla 2000, si on veut, parce que c'est une histoire plus traditionnelle de Godzilla avec, genre, le gars dans le suit de rubber, aussi simple que ça.
Mais ils l'ont tourné tellement vite, le fait que ça a été un an après.
C'est ça, c'était une réaction.
Le film est cheap, mais cheap, là. Puis tu vois, Godzilla, il était pris, puis il était collé dans une ville, puis il a pas l'air là pantoute.
Ouais, ben Toho, on va peut-être en parler tantôt. Toho, ils font souvent ça, des réactions. Dès que les Américains font quelque chose, ils vont contre-attaquer avec quelque chose de Godzilla, mais ils vont comme monter un peu le concept, encore une fois, pour redorer un peu leur blason. Mais ça, c'est autre chose. Alors, continue.
Fait que j'arrive à GMK, 2 ans peut-être après avoir vu Destroy Monsters, parce que ça m'avait ramené un peu, wow, j'aime ça Godzilla, je vais en découvrir plus. Mais à l'époque, c'était quoi, peut-être en 2000, 99, dans ce coin-là, les films de Godzilla étaient pas très disponibles, là. Je veux dire, l'Internet, c'était avant que je download les films pour moi.
Autre Godzilla 2000, ils ont jamais sorti au cinéma ici.
Puis ils étaient seulement en VHS. La plupart n'étaient pas disponibles aussi. Ou s'ils l'étaient, c'était des vieilles VHS discontinues. Fait que tu trouves juste traduit en anglais. Les DVD commençaient à avoir sorti. Je me rappelle, il y avait un premier coffret, que je reviens après, mais un premier coffret de Media Blaster, je pensais. Ou Classic Media, je pense que ça s'appelait. Parce que tu avais toutes les versions full screen, juste en anglais, cheapette, des vues Godzilla et les Incendies, dont l'original, qui était seulement la version Crémonbeur. C'était, le marché était pas tout à fait là. Assez pour dire que c'était excitant, quelqu'un que pour moi, qui avait juste 18 ans, qui l'a découvert ça, puis qui pognait ce qu'il pouvait trouver. Mais il y avait toujours des trous dans la série. Puis là, soudainement, j'arrive à Fantasia. Ça fait peut-être 2-3 ans que j'allais à Fantasia, mais c'était tout récent quand même. Puis là, j'étais avec un de mes amis. Puis on se dit, il y a deux films qui jouent cette année-là. C'était en 2002, dans le fond. Il y avait Versus Megaguirus, qui était un film où ce Godzilla se bat contre un insecte, qui était la première suite après Millennium, après Godzilla 2000, dans le fond, qui était la série Millennium.
Oui,
dans le
absolument.
Fond. Fait que les deux films qui jouaient à Fantasia étaient Versus Megaguirus et GMK.
T'as vu GMK sur grand écran
à
Fantasia?
Fantasia.
Oh,
et c'était
Dieu.
La première, en tout cas au Canada. Je sais pas si c'est en Amérique du Nord, mais c'est au Canada, en tout cas. Et je me rappelle avoir regardé le magazine Fantasia, puis j'étais avec mon ami, puis je m'étais dit, faut aller voir un film de Godzilla, 1 sur 2. Lequel? Megaguirus, GMK. La seule raison que j'ai choisi GMK, c'est parce qu'il y avait Mothra, Rodan, Mothra, King Ghidorah, puis je me rappelais deux autres dans Destroy Monsters. Là, je suis devenu quand même excité, puis je me suis dit, on va voir celle-là. Mais ce qui a été génial, c'est quand on est arrivé, on s'est assis, on s'est rendu compte que Shuzuki Kaneko, le créateur du film, était présent à Fantasia. Je sais pas si t'avais été à la projection.
Non, malheureusement, non.
Puis, en tout cas, à cette époque-là, moi, naturellement, je connaissais pas du tout le réalisateur, mais le fait qu'il était là, déjà, ça l'amenait l'excitation à voir un film cheesy. Tu sais, dans ce temps-là, Godzilla restait un peu cheesy pour moi, même j'aimais ça. C'était pas ce que c'est devenu dans ma tête dans la dernière année par la suite, ce que je suis devenu obsédé. Le réalisateur était là, puis il est venu s'asseoir à deux bancs à côté de moi. Il y avait personne entre moi et lui. Je me rappelle tout le long du film, je me disais, mon Dieu, je pourrais le poker, tu sais, je pourrais le toucher.
Faut serrer la cuisse,
mais
serrer la main.
Mais à l'époque, je savais pas à quel point qu'il était génial, j'avais pas encore vu le film. Et là, le film commence, je m'attends à voir un film à la Ultraman, aux effets spéciaux quand même relativement mal faits, surtout l'image que j'avais là, à l'époque. Puis en fin de compte, j'ai cru qu'un Men in Suit pouvait être géant. Oui, c'était des Men in Suit, mais il avait l'air géant. Je suis ressorti du film, les larmes aux yeux, j'ai eu tellement de plaisir, le monde en rit, ils sont amusés. Puis à partir de là, je me suis mis à tout trouver le film de Godzilla, puis je suis devenu obsédé. Ah. Fait que GMK m'a vraiment rendu un vrai fan de Godzilla.
Excellent,
ton
cool.
Tour.
C'est... exactement le même effet que ce film-là a fait avec moi. Ben, j'ai vu GMK dans la foulée de mon petit marathon que je me tapais à mon époque universitaire, mais GMK a eu un traitement avec moi un peu différent des autres, parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai eu énormément de plaisir, j'ai eu du fun, c'est Godzilla en mode blockbuster carrément, et tellement que comparativement à tous les autres films de la série que j'avais vu récemment, je me le suis retapé deux autres fois avant d'aller leur porter à la bibliothèque, tellement j'ai eu du plaisir, tellement j'avais le fun, tellement je voulais revoir des séquences de combat avec tous les monstres, j'avais eu énormément de plaisir, puis tellement que j'ai tenté de populariser vraiment ce film-là avec ma gang d'amis. Un soir, quelques mois plus tard, je suis avec une gang de chums, on boit une bière dans un appartement, là on a le goût de se taper un film parce qu'on était tous des étudiants en cinéma. On s'en va dans un club vidéo près de où est-ce qu'on était, on trouve rien, puis là on se demande qu'est-ce qu'on a envie de regarder, là, les gens font comme ça, t'as-tu une suggestion? GMK dans ma tête. Fait qu'on a tout fait le chemin de la promenade Ontario en métro jusqu'à la Bibliothèque nationale. Genre, on arrive là 5 minutes avant que ça ferme. Fouille dans les DVD. Je trouve GMK. On loue. Après ça, on retourne encore une fois à l'appartement où est-ce qu'on était. Bref, on s'est tapé à peu près 2 heures de transport pour ça. Ensuite, on le met dans le lecteur DVD. La gang a eu énormément de fun à regarder
en
ce film-là
ou
aussi. On l'a écouté à ma demande en japonais, sous-titré français. Ben, en fait, c'est exactement le même DVD qui est à côté de moi carrément en ce moment. Donc, c'est ça. La gang a eu énormément de fun. C'était cool. Puis, il y avait beaucoup de gens qui étaient sceptiques à voir du Godzilla, tu sais, le gars dans le suit, etc. Ils pensaient que c'était plus ridicule que d'autres choses. Mais ils ont vraiment cru. Ils ont cru en l'illusion que le film montrait. Ils ont vraiment cru pendant un instant que tous ces monstres-là existaient. Ils ont eu un bon moment. Alors, je suis fier au moins de leur avoir montré ce film-là. Pendant qu'on parle de GMK, je suis persuadé qu'on a des auditeurs en ce moment qui ne l'ont jamais vu. Alors, on va en parler un petit peu. Moi, ce que j'ai envie de faire, juste pour nous situer, je vais faire un petit résumé de l'intrigue. Comme tu l'as mentionné, c'est un reboot, parce que dans les années 2000, ce qui est amusant, c'est qu'il y a eu à peu près 4 des 5 films de Godzilla qui sont sortis. C'était tous des films qui ne tenaient pas compte de tous les films sortis entre 1955 et la date de ce nouveau film-là. Bref, les seuls événements qui comptaient, c'était ceux tirés du film de 1954, Godzilla, l'original. Comme je le dis, on ignore tous les événements qui sont passés dans les films précédents. Alors, grosso modo, ben, GMK, ce qui se passe, c'est que lorsque Godzilla émerge des profondeurs de la Terre pour s'attaquer au Japon, il y a 3 monstres gardiens qui sont issus d'une prophétie, c'est-à-dire Baragon, King Ghidorah et Mothra, qui sortent de leur sommeil pour affronter Godzilla, pour l'empêcher de tout détruire et tuer sur son passage. C'est plutôt simple comme concept. Là-dedans, il y a des petits humains qui sont là pour un peu lier toute la sauce ensemble, donner de l'exposition sur pourquoi ces monstres-là vont aller à la rencontre de Godzilla pour le combattre, quelles sont les motivations de Godzilla, et etc. Bref, c'est ça, la table est mise pour notre GMK. Quelque chose à dire à propos de l'histoire en général? Tu l'as-tu trouvé correct? Est-ce que tu as trouvé le setup bien fait?
Oui, ben moi, c'est un de mes meilleurs, là, facilement. Fait que c'est sûr, l'histoire, je trouve qu'elle est assez forte. Le film prend quand même certaines libertés sur Godzilla. J'aime ça comme les autres films d'avant, que le seul film qui est une suite, c'est l'original. Et c'est le seul dans lequel Godzilla semble être le même Godzilla que dans l'original, parce que j'ai toujours trouvé que...
On va y venir!
Il y a seulement 3 films dans lesquels je trouve Godzilla est vraiment pure evil, ou est-ce qu'il est méchant à fond. L'original, qui est quand même là où est-ce qu'il vient. Dans les suites, par la suite, il était méchant, mais je dirais pas cruel, autant que dans l'original, où est-ce qu'il fait juste ravager, tuer les gens. T'as même une scène que t'as une mère avec son enfant dans une ruelle, en train de pleurer, pis elle dit, fais-toi-en pas, mon fils, on va aller rejoindre notre père dans pas long qui est mort pendant la Deuxième mondiale. Pis tu te rends compte à quel point c'était sombre, quand même, comme film. Et je dirais, entre ça et GMK, il y en a aucun vraiment qui est retourné avant GMK dans cet univers-là. Et je dirais Shin Godzilla depuis.
Ah, tout à fait, absolument.
Mais c'est pas mal tout, parce qu'en les autres, il est comme soit bon, ou il est, comment on dit ça, neutral, là, dans Donjons Dragons.
Oui, tout à fait, il est neutre, puis il commence méchant, à un moment donné, il se passe quelque chose, souvent, il y a une autre créature qui a l'air encore plus menaçante que lui, qui veut encore une fois s'attaquer aux humains, à la ville, et etc., donc il décide de prendre le côté des humains pour se débarrasser de cette créature-là, bref, essayer de rétablir l'équilibre pour qu'il reste le seul roi des monstres.
Qui est-ce que je préfère, généralement, j'avoue, moi j'aime mon Godzilla qui est pas gentil, mais qui est pas un sans pure evil, qui est entre les deux, parce que ça laisse être capable d'affronter des amis plus méchants ou plus gentil. Ça le met comme entre les deux, un peu comme Frankenstein. Mais...
Ben, c'est ça qui est le fun. C'est une petite surprise à chaque fois qu'on voit un film de Godzilla, sauf certaines exceptions, bien sûr.
C'est ça, c'est tellement rare qu'il est un méchant que je trouve ça fait du bien.
Oui. Puis si on en parlait carrément, moi, ce que j'ai envie qu'on fasse, c'est qu'on fasse une présentation monstre par monstre de ceux qui se présentent dans GMK. En premier, ben, on va commencer avec le gars qui a le titre, c'est-à-dire Godzilla. Moi, j'ai noté certains points qu'on peut discuter. En premier, comme on l'a mentionné, il est plus méchant et puissant que jamais. Idéalement, débarque, c'est vraiment un destructeur sur deux pattes. Encore une fois, comme voulait le premier film à l'époque, c'est une métaphore de la bombe nucléaire, des conflits armés, de toute la mort qui a été causée dans le Pacifique. Puis en plus, d'ailleurs, dans ce film-là, ils ont donné justement ce background-là. Il y a un personnage amené qui explique que Godzilla est perçu comme un spectre de la guerre. C'est une créature faite de toutes les âmes des gens morts pendant la guerre dans le Pacifique. Donc c'est vraiment une espèce de créature qui a été créée par la radiation, mais qui a une espèce d'aspect mystique et démoniaque avec. Puis aussi, ben, démoniaque, on peut en parler parce que il y a une apparence complètement différente dans GMK que dans les que le film précédent, puis dans les films qui les ont suivis. Il est très massif, il a vraiment l'air d'une espèce de grosse gueule de tyrannosaure avec des grosses dents. Puis moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est ses yeux. Il y a même pas de pupille, c'est juste deux gros globes blancs qui ont l'air complètement méchants, diaboliques.
C'est le Pazuzu des Godzilla.
C'est ça, exactement. Oui, c'est, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que je voulais dire?
Il y a une
dire?
Petite bédaine de bière aussi.
C'est ça, je me souviens. La première fois qu'on a parlé de ce film-là, bien longtemps, tu me dis, ah, mais il y a une bédaine là-dedans.
Une petite bédaine de bière.
Ah oui, puis il est extrêmement puissant. Même, il y a certains côtés sadiques aussi dans ce film-là. À un moment donné, je pense à une scène où est-ce que, il y a une première fois où est-ce qu'il fait une attaque, il débarque dans une petite île, puis il y a une survivante. Et plus tard, quand Godzilla débarque dans une plus grande ville, on voit cette survivante-là qui est dans sa chambre d'hôpital, qui est soignée pour ses blessures. Elle s'est sortie à peine vivante de cette première attaque-là. Là, tu vois, Godzilla se dirige tranquillement vers l'hôpital, vers la chambre d'hôpital de la fille. Finalement, il passe à côté. La fille est super soulagée, mais finalement, la queue de Godzilla qui s'en vient cracher dans le côté de l'hôpital.
Juste pour la tuer, elle. Exactement. T'as pas en train de pleurer de joie parce qu'elle a survécu en plus.
Puis bang, la queue, genre, détruit la moitié de l'hôpital. La fille, elle meurt dans d'horribles souffrances.
Ouais, mais meilleur shot du film, quand tu vois Godzilla qui est dans la rue, puis t'as les gens dans la rue qui courent, qui crient, qui veulent pas mourir, ils se retournent vers les autres, puis tu le vois en train de charger pour tirer. Je pense que c'est la première fois qu'il tire dans le film. Puis là, tu vois un shot plus loin des enfants qui sont à l'école, puis le professeur qui est en train de leur montrer quelque chose, puis il se retourne, puis il regarde par la fenêtre, puis tu vois le champignon atomique en plein milieu de la ville exploser.
Il a décimé la ville de sang-froid, carrément. Tu sais, destructeur, là, ben c'est ça, carrément.
Ben, c'est le Jason Voorhees, quasiment, des Godzilla, là, un tueur en série qui massacre le monde, même pour les autres monstres. Les autres monstres, ils massacrent un après l'autre. On va venir là-dedans, là, mais...
Tout à fait. Puis aussi, faut que je te parle de sa taille là-dedans. Et j'ai fait un petit barème ici des différentes tailles de Godzilla à travers les années. Comme ça, tu vas pouvoir faire le comparatif. Donc, dans GMK dont on parle, Godzilla ici mesure 60 mètres de haut et pèse 30 000 tonnes. Si tu veux, je peux nous amener dans le passé et dans le futur pour voir où est-ce qu'on en est. En 1954 et la version 1955, jusqu'à aller en 1975, c'est-à-dire la période de Godzilla Showa, comme on l'appelle, il a toujours fait 50 mètres de haut et pesé 20 000 tonnes. Après ça, on va faire un saut dans le temps en 84, ou c'est selon 85, où est-ce que vous étiez à cette époque-là quand le film est sorti. Là, il a grandi un petit peu. Godzilla mesurait 80 mètres de haut et pesait 30 000 tonnes. On fait un autre saut dans le temps, de 91 à 94, c'est-à-dire la fameuse série des années 90, baptisée Godzilla Heisei. Notre Godzilla a pas mal grandi, on est rendu à 100 mètres de haut et 60 000 tonnes. Je fais encore une fois une espèce de petit saut dans le temps avec...
98, en fait, comment, hein?
Je pense qu'il faisait 40 mètres de haut, à peu près la version Roland Emmerich, d'après mes recherches.
Ouais, donc, il était plus petit quand
il
même.
Il est assez petit, effectivement. Là, on se ramène 2002 et 2003. Je fais exception de 2001 avec GMK. Lui, il a redescendu un petit peu. Il est descendu à 55 mètres et 25 000 tonnes pour les films Godzilla versus Megaguirus versus Mechagodzilla et Tokyo SOS. On s'en va l'année d'après avec Final Wars de Kitamura. Là, tout le monde sait que ce réalisateur-là, Kitamura, c'est un gars d'excès. Alors, il a refait bondir Godzilla vers le haut avec, maintenant, il mesure 100 mètres de haut et 55 000 tonnes. Maintenant, 10 ans plus tard, en 2014, avec le fameux Godzilla américain de Legendary Pictures, là, on fait les choses en grand. On est à 108 mètres de haut et 90 000 tonnes. Et comme je disais, Toho a toujours voulu faire réaction avec une version de Godzilla proposée par les Américains. Alors, dans Shin Godzilla, sorti en 2016 au Japon, on est à 118 mètres, 5 et 92 000 tonnes de gros lézards.
Et la plus grosse queue aussi.
Ah, c'est...
Ça, c'est important.
Ça, c'est débile, ça. Et, juste dans récemment, on va y venir plus tard, vers la fin de l'émission, mais Godzilla est présent en ce moment avec une trilogie de films en animé. Et le premier qui est sorti dans ce premier film-là, ben Godzilla qui a été baptisé le Godzilla Filius, fait 50 mètres de haut et 10 000 tonnes. On est pas mal revenu dans la version 1954-55. Et dans ce deuxième film-là de la trilogie, où est-ce que là, on a un Godzilla encore plus gros qui a été baptisé Godzilla Earth. Attache bien tes bretelles. On est à 318 mètres et 100 000 tonnes de poids de Godzilla. Alors, on voit qu'il y a souvent eu des régimes minceurs et des régimes pour essayer de le faire grandir et diminuer selon les besoins de l'histoire et selon les besoins besoins ben, des réalisateurs, justement.
Je trouve ça dur, ça. Si tu le fais trop petit, tu perds un peu le côté titan majestique, la version plus grande.
Oui.
Mais en même temps, s'il est trop grand, et là, il peut plus du tout interagir avec les humains. Tu sais, quand c'est rendu, il fait 300 mètres. Mais en même temps, j'aime bien ça. Moi, plus il est gros, on dirait plus je suis excité.
C'est ça, effectivement. Mais comment on le combat avec ça de manière comme un peu logique?
Pauvre King Kong, quand même.
C'est ça, effectivement. Donc, King Kong, ça va être quelque chose. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Deuxième monstre maintenant qui est introduit en deuxième. On peut y aller avec Baragon, ok? Baragon, c'est ce nom. Lui, ben, c'est un reptile à quatre pattes qui ressemble un peu à un opossum. Il a une peau rouge-brun à peu près, des grandes oreilles d'éléphant puis une longue corne au milieu du front. Là, ce qui est amusant, c'est que Baragon, lui, c'est un monstre de Toho. Toho l'a pas souvent sorti des boulamites.
Il a fait
une première apparition en 1965 dans un film que t'as sûrement aimé, Frankenstein versus Baragon.
Un classique.
De Toho, effectivement, dans lequel la version du monstre de Frankenstein de Toho, qui est comme gigantesque aussi, affrontait un monstre protecteur qui était Baragon, carrément.
Ça, c'est en passant à la suite de ce film-là est encore meilleur.
Pour vrai, c'est
la cool. Guerre des Gargantuan. War of the Gargantuan. Tu as vu ça?
Non, ça manque à la culture.
C'est incroyable parce que la seule chose que j'ai pas aimé de Frankenstein, on fait un petit détour, mais de Frankenstein contre Baragon, ou peu importe le titre, il y a comme 15 titres, c'était Frankenstein en tant que tel, qui est juste un dude en bobette.
j'ai vu des images de ça. On est loin de Boris Karloff.
Ben non, tu sais, puis il a l'air un peu ridicule, puis moi, il me faut un man in suit, tu sais. Puis le fait que c'est juste un dude un peu maquillé, un petit peu plus foncé, qui est un japonais gigantesque en culotte, ça passe pas super bien. Mais dans la suite, la guerre de Gargantuan, c'est comme deux King Kong. Le meilleur make-up de Man in Suit, le King Kong que tu vas voir, pis c'est deux monstres tout poilu. Ils ont l'air des Yeti, dans le fond.
Okay.
Des Yeti ou Bigfoot gigantesques. Puis eux autres, contrairement aux autres monstres dans le Toho univers, prennent des humains puis les mangent. Qui est très, très rare, là.
Enfin, enfin.
En dehors de King Kong, là, dans King Kong Lives, là, c'est rare qu'on voit un géant monstre.
Ouais,
anyway, continue, excuse-moi.
Ah, c'est amusant, ça. Et là, maintenant, faut qu'on parle un peu des performances au combat de Baragon. Parce que, dans le film, c'est le premier monstre protecteur à surgir de sa cachette pour finalement aller rencontrer Godzilla pour le combattre afin de le détruire ou de le faire retourner d'où il vient pour sauver d'innombrables vies humaines, d'innombrables villes. Et le combat se passe en plein milieu de la forêt et des montagnes du Japon. Et Baragon a pas le droit d'être dans le même ring que Godzilla. Il se fait humilié,
pauvre
il
Baragon.
Se fait planter, il est minuscule comparativement à Godzilla, il y a pas beaucoup d'attaques spéciales, tout ce qu'il fait c'est qu'il saute, il mord le bras de Godzilla.
Puis il bouge les oreilles.
C'est ça, il, je sais pas si sa corne avait genre un pouvoir spécial
oui,
ou quelque
dans,
chose du genre.
Oui, dans l'autre il tirait avec sa corne, mais okay. Il était plus fort puis plus puissant dans l'ancien film.
Mais là-dedans, c'est ça, je vois même pas pourquoi ultimement ils l'ont mis dans le film parce qu'il sert pas à grand-chose, il se fait vraiment
mais
ridiculiser.
Kaneko, c'est ça qu'il voulait originalement. On va en parler plus tard là, mais oui. Kaneko voulait mettre trois monstres. À la fin du podcast, on pourra en parler, mais il voulait pas les deux suivants. Je dirais pas quel monstre qu'il voulait, mais son but original, c'était qu'il voulait trois monstres faibles, moins connus, qu'on n'avait pas vu depuis 30 ans, pour que Godzilla, quand il passe au travers, eux autres sur les underdogs qui se font massacrer par Godzilla, pour montrer que Godzilla était le plus fort. Fait que Baragon est le seul qui est resté dans cet original
dans les choix originaux du réalisateur.
Fait qu'il est resté l'underdog qui fait pitié, qui se bat, tu comptes pour lui quand même, il essaye fort, pis t'es là, vas-y Baragon, pis là, même il fait mal à Godzilla, pis tout le monde applaudit, pis on est dedans. Même les journalistes, me semble, dans le film, sont là, vas-y Baragon!
Oui.
Plus, soudainement, pauvre Baragon.
Les réjouissances durent pas longtemps.
Non.
Se fait planter, ramonner, il mange des coups de pied, des coups de queue, de l'haleine atomique, comme on dit, de Godzilla. Le combat ne dure pas longtemps.
Mais même quand il meurt, c'est triste. Il tombe sur le dos, puis là, il est comme « Ah, ça fait mal! » Mais il fait toute pitié, tout le monde est là « Oh non, pauvre Baragon! » Puis il regarde, puis se rend compte que Godzilla est en train de charger pour la faire exploser, puis il crie comme un pauvre petit cochon.
Exactement, puis après ça, un bon jet genre de souffle atomique, et boum, il explose dans 10 000 morceaux. Quel plaisir à voir. Avant qu'on passe au deuxième monstre, moi, en regardant encore une fois le combat avec Baragon. Moi, il y a un petit quelque chose qui est venu à mon oreille. Ils ont modifié pour le film le cri de Baragon, dans le fond. Ils ont donné quelque chose d'un peu plus travaillé puis d'un peu plus moderne comparativement à quand il a affronté Frankenstein. Et dans la conception du cri de Baragon, moi, j'ai reconnu quelque chose, OK? Moi, j'ai envie de te faire écouter 2-3 extraits sonores pour te faire comprendre à quoi ça m'a fait penser. À la maison, vous allez l'écouter avec nous autres. Je te fais écouter 2 extraits, c'est-à-dire 2 variations du cri de Baragon, puis après ça, à quoi ça m'a fait penser. Premier cri de Baragon. OK. Là, je vais te demander pour le deuxième de porter attention juste au petit bruit aigu, OK? Parce que c'est un mélange de cri grave et de cri aigu, OK? Donc, deuxième extrait d'un cri de Baragon. OK. Tu gardes bien ça en tête.
Ouais.
Voici ce dont à quoi ça m'a fait penser. Ça me fait penser à une créature qu'on voit dans dans le troisième film d'une série américaine de prequel. Je te le fais écouter. Ça te dit quelque chose?
C'est dans Star Wars.
Oui, mais... Star Wars épisode 3, Revenge of the Sith. À un moment donné, il y a Obi-Wan qui poursuit le général Grievous, puis Obi-Wan, il chevauche une espèce genre de salamandre poilue puis avec des plumes, puis il y a un petit cri comme ça, exactement un peu comme Baragon, avec un petit bruit, bruit, tu sais, très aigu. Puis dès que j'ai entendu Baragon crier, j'étais comme, oh man, c'est-tu Jean Lucas qui a pris un petit peu du cri de Baragon? Je le sais pas.
Copier Baragon.
Il y a des petites similarités, mais en tout cas, ça a chatouillé mon oreille, puis je voulais te faire partager un peu
Temps que t'appelles
ma réaction.
Hein.
C'est ça. Je sais pas s'il y a une poursuite judiciaire qui s'en vient, quelque chose.
Ça fait 20 ans qu'elle est en cours, ça, pour ça.
Ah, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça. Donc, Baragon ne fait pas long feu contre Godzilla. Par la suite, il va y avoir un deuxième monstre protecteur, un monstre gardien qui s'en vient. Ça va être le très sympathique Mothra.
La très sympathique,
effectivement.
Pas beaucoup de monstres féminins.
Féminins, effectivement. Faut que je me donte parce que j'ai toujours considéré Mothra comme un gars, mais effectivement, on peut dire que c'est une femelle, absolument. Donc, Mothra, c'est un papillon géant. D'habitude, c'est une bienfaitrice. Est toujours du côté de la préservation de la vie, est toujours très pacifique, à part quand il faut combattre Godzilla ou il faut aider Godzilla à combattre un monstre encore plus méchant.
Dans le premier film de Mothra, par contre.
Oui, absolument, il était méchant. Elle était méchante, en fait.
En japonais, c'est Mozula. Tu sais, les petites jumelles qui chantent
Mozula.
Mozula.
Donc, voilà, effectivement, à part ce premier film-là, je pense en début des années 60, c'est ça. Elle était.
Mais même dans le premier,
pacifique.
Elle était pas purement evil. Dans le premier, c'est parce que son peuple, elle vivait sur une île. Il y avait un peuple d'indigènes qui étaient en fait des Japonais déguisés, je pense, en africains. C'était ça à l'époque, mais en tout cas. Puis ils vénéraient, mais ce style-là était plein de pollution puis de déchets atomiques. Ouais. Puis les gens commençaient à avoir des troisièmes yeux, je sais pas trop.
Oui, il y a souvent un commentaire très environnementaliste.
C'est ça,
fait
quand Mothra va punir l'humanité, c'est parce que les gens, je pense, avaient soit kidnappé les jumelles et en plus avaient maltraité son peuple. Fait qu'il y avait quand même une bonne raison derrière pourquoi Mothra.
Pour demander vengeance.
Fait qu'on était un peu derrière elle quand même.
Excellent. Puis après ça, bon, Mothra est souvent sous plusieurs formes dans les films dans lesquels on la voit. Ça commence toujours sous la forme d'une chenille. À un certain moment donné, elle va se faire un cocon et plus tard, pour sauver la journée à la fin du film des destructions de tous les monstres, mais va virer en une espèce de papillon et va aller combattre soit avec Godzilla ou contre lui.
En fait, une trilogie de films
oui,
de Mothra.
Oui, j'y arrive.
Vas-y, explique-toi.
Puis aussi, bon, c'est ça. Mothra est pas mal présente dans toutes les airs des films de Godzilla depuis les années 60, soit comme je le disais, une alliée ou une ennemie de Godzilla. Puis, et c'est un personnage qui est très, très populaire au Japon. Comme tu le mentionnais, elle a eu son propre film en 1961. Et dans les années 90, il y a eu une trilogie de films nommée Rebirth of Mothra entre 96 et 98 qui, selon mes renseignements, ont été plus ou moins appréciés.
Alors, je les ai écoutés, moi, puis c'est assez pourri.
Okay. Mais Fred, à la lumière de tout ça, j'ai une confession à te faire, OK? J'ai Mothra! Je suis pas capable, merde. À chaque fois que je la vois débarquer dans un film, peu importe, genre, l'année de production, elle me tombe sur les nerfs. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un combat avec Godzilla ou contre Godzilla, il y a toujours, genre, la même maudite rengaine qui se passe. C'est-à-dire, elle va arriver, elle va faire une petite attaque qui sert pas à grand-chose, elle va se faire planter, elle va se relever, elle va faire une autre attaque qui a pas rapport. Souvent, c'est sa petite poussière paralysante qui sert à rien. Va encore se faire planter, va encore tomber au sol pendant 10 minutes. Puis à la fin, elle va faire un petit move qui va comme aider l'autre monstre plus fort à combattre Godzilla. Je suis pas capable, OK? Elle m'énerve comme ça se peut pas. Sauf que dans ce film-là, GMK, j'avais oublié un peu les interactions qu'elle a depuis la dernière fois que je l'ai vue. Puis finalement, ben, c'est pas si pire que ça parce que elle est pas là si souvent que ça. Et deuxièmement, ses attaques ont un petit peu changé. Ce qui est le fun, c'est que les scénaristes, comme t'as pu le voir, lui ont donné des attaques différentes. Cette fois-ci, je pense qu'elle pitch comme des dards puis il fait deux, trois trucs
c'est
différents.
C'est un bon changement.
Puis, tu sais, elle est pas là trop longtemps puis la survie du monde ne dépend pas d'elle. Et, qu'est-ce qui se passe encore une fois dans l'affrontement contre Godzilla. Elle aussi, elle en mange une tabarnouche, honnêtement. Là, c'est pas évident, elle se fait encore une fois barouetter. Elle utilise ses pattes pour essayer de griffer le visage de Godzilla. Elle envoie encore une fois des dards, des petites attaques qui font pas grand-chose. Puis ultimement, encore une fois, grâce au souffle atomique de Godzilla, bang, elle explose. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit avant qu'elle explose pour de bon. Il y a un petit moment super métal. C'est qu'à un moment donné, elle sort des décombres, puis elle a les ailes en feu. Pis oh mon, c'est métal. Après ça, elle fait une dernière attaque vers Godzilla, genre une attaque désespérée, mais finalement, il l'attend avec le souffle atomique et boum, elle explose. Encore une fois, en milliards de morceaux.
C'est quand même un bon choix parce que Mothra est très underdog aussi. Fait que je suis pas non plus moi un géant fan de Mothrop, je vais revenir un petit peu après. Mais comme choix, Baragon, je trouve que c'est un très bon choix pour avoir l'air du petit underdog qui se fait massacrer par Godzilla. Puis Mothrop, parce qu'elle est tout petite là-dedans, puis qu'elle fait des attaques différentes, comme tu dis, elle fait gardien. Tu sais, c'est trois gardiens qui est un peu les gardiens de la planète, etc., de l'environnement, puis l'humanité. Puis Mothra fit dans ce rôle-là très bien.
Moi, ce que j'ai trouvé très, très drôle, c'est, enfin, une fois, oui, Mothra, c'est une gardienne, puis ça, mais chacun des monstres, quand il débarque, il fait des dommages collatéraux. Même Mothra, à un moment donné, tue du monde.
Ah ouais,
sans... Oui, elle tue du monde sans vouloir. C'est que, tu te souviens, l'arrivée de Mothra sous forme de chenille, c'est dans un lac, puis on voit des petits jeunes qui font le party, qui pognent un chien, puis qui mettent dans une boîte, qui veulent aller le noyer. Ils sont dans une chaloupe.
Ah, mais les eaux, de mourir.
C'est ça, là, les eaux commencent à shaker, ils tombent dans l'eau, puis là, tu vois Mothra qui arrive, puis là, qui les amène sous l'eau pour les noyer. Puis plus tard, dans un bulletin d'information, on entend « Alors, les 12 cadavres ont été trouvés enterrés dans un cocon de toile. »
Mais le chien a survécu,
oui, le chien a survécu, effectivement.
Mais ça montrait, parce que les enfants, les jeunes, essaient de tuer le pauvre petit chien en voulant le noyer.
Exactement.
Fait qu'elle vient à la rescousse du chien et tue les gens méchants. C'est un peu
comme... C'est ça que j'ai trouvé drôle. J'avais jamais vu avant comme Mothra tuer du monde, peu importe la raison. En tout cas, ça m'a fait bien rire. On termine avec le dernier monstre, le clou du spectacle, c'est-à-dire King Ghidorah, mon préféré que j'aime depuis des années. Et ben King Ghidorah, de quoi il a l'air? C'est un dragon doré à trois têtes qui a fait son première apparition en 1964 dans Ghidorah, The Three-Headed Monster, dans lequel il affrontait Godzilla.
Et Rodan aussi, tout comme dans le nouveau film de Godzilla qui va sortir l'année
prochaine. Absolument. King Ghidorah est vraiment présent dans toutes les ères de Godzilla, encore une fois, jusqu'à nos jours. Puis moi, je le considère comme l'adversaire le plus digne de combattre Godzilla. C'est normalement, ils ont à peu près la même taille, même que à l'origine, Ghidorah est toujours plus gros puis plus grand que Godzilla. Puis c'est Godzilla qui fait office de personne qui est pas favorite pour gagner le combat.
D'habitude,
tout simplement le négligé.
Moi, King Ghidorah est le seul aspect du film que je n'aime pas, parce que King Ghidorah est mon deuxième monstre préféré après Godzilla. Tu sais, puis j'ai toujours adoré King Ghidorah dans les vieux Godzilla, surtout les incendies, parce que c'était toujours le méchant le plus imposant. Il fallait 3, 4, des fois 15 monstres pour pouvoir le vaincre, comme dans Destroyer Monster ou dans Ghidorah the Three-Headed Monster.
Inarrêtable.
Ou dans Astro Monster. C'est toujours le monstre qui était plus... Godzilla lui seul pouvait pas battre King Ghidorah parce qu'il était trop grand, trop puissant. Il l'appelait à l'époque le The Destroyer of Walls, le destructeur de planètes. Et il était envoyé par les aliens pour détruire des planètes. Donc, c'était un monstre bien pire que Godzilla, là, tu sais. Puis dans les années 90, il a été ramené dans AC et il avait été raté, sur mon avis. Parce que là, c'était plus The Destroyer of Walls, c'était trois petites peluches ben cute qui étaient ramenées dans le passé, qui mergeaient pour devenir King Ghidorah. C'est quoi cette origine-là? On passe d'un monstre extraterrestre détruit des planètes qui est invincible à trois peluches qui se transforment en King Ghidorah, tu sais. Puis dans le film, King Ghidorah est pas très puissant. Godzilla, il sac une volée, mais efficace à fond, tu sais. Puis après qu'il a sacré une volée, les aliens doivent aller chercher King Ghidorah dans le futur, puis le transformer en Mecha King
Ghidorah.
Exactement,
parce que Godzilla a décapité une des têtes de King Ghidorah. Fait que ces aliens-là, je pense avec aussi, en collaboration avec les humains du film, mais lui mettent une tête robotisée.
C'était pas des aliens, c'était des humains du futur.
Ah oui, ok, dans ce cas-là.
C'était comme à CBS comme scénario. J'adore ce film-là quand même, tu sais, mais c'était pas... Puis même le King Ghidorah, Mecha King Ghidorah, se fait sacrer aussi une volée. Il y a jamais aucune chance contre Godzilla.
Parce que c'est ça qui est surprenant. C'est que dans GMK, ben cette fois-ci, le combat est un petit peu plus égal. Tu sais, il fait meilleure figure contre Godzilla que Baragon et Mothra.
Mais quand même.
Mais il y a plein de moments où est-ce qu'il se fait mettre littéralement KO. Puis il faut que des petites chances réussissent à lui redonner son mojo. À un moment donné, Ghidorah se fait mettre KO. Par la suite, Mothra fait ce qu'elle peut. Finalement, elle explose. Et genre, l'essence de vie de Mothra est transférée dans King Ghidorah. Puis ça lui redonne son mojo pendant quelques instants. Il est capable d'aller combattre.
Non pour ce merge là,
je sais pas, je pense
King
pas...
Mothra ou je sais pas.
On peut y en donner un.
Ah, c'est là que ses ailes poussent à King Ghidorah.
Oui,
quand ils mergent ensemble.
En effet. Puis là après ça, il y a un autre combat sous l'eau. Encore une fois, Ghidorah se fait mettre KO par Godzilla qui est littéralement inarrêtable. Et à un moment donné, il y a un des personnages humains qu'on va parler dans quelques instants qui a une petite amulette sur elle. L'amulette tombe dans l'eau, s'en va se frotter King Ghidorah et ça lui redonne encore un mojo pour
mais
en poursuivre.
Mais il sort fait sacré une volée encore.
Et oui, et
c'est ça mon problème.
Il s'en fait sacrer une volée, il fait ce qu'il peut encore une fois, mais le souffle atomique de Godzilla est encore là pour donner le coup final et boum! King Ghidorah explose dans la plus grosse explosion en studio qu'on a jamais vue de l'histoire du cinéma. Là, il y a deux, même trois, genre, monstres très célèbres qui meurent vraiment à la grande surprise des spectateurs. Puis on se demande si, d'ici la fin du film, est-ce que Godzilla va être arrêté en mamie? Parce que d'habitude, c'est des monstres qui ont raison de lui, mais là, il s'essuie les pieds littéralement contre eux autres. Une chose qu'on a probablement jamais vue aussi exacerbée de ça dans aucun film de Godzilla. C'est ça que j'aime, cette particularité de ce film-là, c'est que il est tout puissant, Godzilla, là-dedans. On sait pas, il est inarrêtable, on sait pas comment on peut l'arrêter.
Parce qu'il y a très peu de films que c'est les humains qui battent Godzilla. T'as l'original, t'as 85, t'as Shin Godzilla, puis t'as JMK. C'est quasiment tout. C'est généralement, c'est toujours un autre monstre.
Ouais. Exactement, t'as parfaitement raison.
Raids again aussi.
Puis parlant des personnages humains, ben on peut peut-être en parler un petit peu. Là, j'ai besoin qu'on ouvre la conversation, toi et moi, parce que habituellement, les humains dans un film de Godzilla, ils vont faire deux choses. Soit ils vont être utiles à l'action, ils vont bien complémenter carrément les affrontements entre Godzilla et des monstres, ou bien ils vont ralentir l'histoire carrément, et peut-être qu'ils vont avoir, un peu comme la majorité du temps, où est-ce qu'ils ralentissent une histoire, il y a comme des intrigues dans lesquelles Godzilla n'a pas rapport. Tu sais, je me souviens comme dans Godzilla Revenge en 1955, il y a comme une histoire d'amour et d'adultère entre les personnages humains pendant que Godzilla, des fois, apparaît de scène en scène ici et là, mais c'est vraiment une histoire comme d'amour là-dedans.
En Godzilla Revenge, c'était
en 55?
Celui... Raids Again, tu veux dire.
Ouais, quelque chose de genre. C'est deuxième.
Parce que Revenge, c'est celui avec l'enfant qui devient ami avec Minilla,
okay,
avec le fils de Godzilla, puis là, il s'imaginait des histoires Godzilla.
Ok, Godzilla Raids Again. Okay,
Raids Again, oh, qui était une histoire d'amour.
Le rôle des humains dans GMK, comment tu le décrirais, comment tu l'as trouvé?
Moi, j'ai trouvé que c'était un des plus forts. En fait, la fille, c'est une femme avec son père, une fille qui s'appelle Yuri, et son père qui est un amiral qui s'appelle Taizo. Parce qu'habituellement, dans les films Godzilla, c'est très rare que les personnages soient intéressants. Il y a dans les films originaux les Innocents qui sont quand même bien, parce que dans les Innocents, l'avantage que Godzilla avait, Toho mettait dans leurs acteurs, c'était des acteurs très forts. Tu sais, quand ils ont réalisé les tout premiers films, là, soit Godzilla ou les films Innocents, c'était pas n'importe qui était dans le film. Le monde pense ici que c'est des films B, mais non, au Japon, c'est des films A, c'était des gros budgets. T'avais dans le Godzilla, comment il s'appelle, l'acteur de Seven Samurai, Takashi Shimura.
Okay.
Excuse-moi, Takashi Shimura, qui était un des grands acteurs du Japon, qui était dans 2-3 Godzilla à l'époque. C'est des acteurs forts. Mais les années 90, tu sentais que la qualité était déjà moins là. Moi, j'adore les films des années 90 puis les années 80, mais les acteurs étaient pas nécessairement les plus grands. Et dans GMK non plus, la fille principale, c'est une pop singer, me semble, d'après ce que je me rappelle, qui était souvent le cas, tu sais, les chanteuses pop de l'époque. Mais elle fait une job quand même assez bien. Puis contrairement aux autres personnages, elle a un arc. À part de quelqu'un qui saoule tous les soirs avec ses collègues de travail, qui flirte avec le monde, qui prend pas au sérieux, son père qui le remet un peu à sa place. À la fin du film, elle veut sauver le Japon. Fait qu'il y a une grosse différence entre le début puis la fin, puis tu le sens. Puis son père aussi, lui, c'est sur l'honneur, la loyauté, etc.
Oui, tout à fait, parce que ces deux personnages-là sont un peu aux antipodes, même sont dans la même famille. La jeune Lori, elle, c'est une employée d'une station de télé qui produit du contenu un peu boboche. Et cette jeune fille-là a les ambitions d'être une journaliste de terrain, tu sais, couvrir des événements pour les grandes stations de nouvelles japonaises, puis elle a l'opportunité de faire ça lorsqu'elle découvre justement certaines traces de certains manuels qui montreraient qu'un démon s'en vient, c'est-à-dire Godzilla, puis qui va être affronté par trois monstres gardiens qui sont
ceux
qu'on
trouve un peu, mais il me semble qu'elle trouve un...
C'est ça, elle trouve des artefacts.
Le médaillon, King Ghidorah.
C'est ça, elle trouve des statuettes, et etc. Donc elle donne vraiment l'exposition nécessaire pour vraiment faire en sorte que qu'on comprenne en tant que spectateur que cette légende-là va se concrétiser. Puis à la fin, ben, comme on le dit, c'est ça, elle va aller braver avec sa petite caméra puis son micro
pour être sur le terrain
pour vraiment filmer ces affrontements-là, pour commenter de manière extrêmement dramatique. Puis on va suivre aussi son père, l'amiral Tachibana, qui lui c'est un gros bonze de l'armée.
Taizo Tachibana,
c'est ça, exactement. Ouais, l'amiral Tachibana, ouais, ça, on était proche. Donc là, c'est ça, lui, il va se rendre compte que ce que le gouvernement décide, les actions militaires, ça fonctionne pas comme dans tous les films de Godzilla. Chaque fois qu'il y a un affrontement avec des humains, en tout cas le trois quarts du temps, ça chie. Ici, on envoie les tanks, les avions, tu peux être sûr qu'ils reviendront
pas
à la base.
Les Mazers, une espèce de tank avec des lasers là, que c'est juste dans les films de Godzilla.
Fait que là, bon, à un moment donné, ben l'amiral va directement aller sur le terrain, embarquer dans un sous-marin et éventuellement aller combattre Godzilla lui-même. Et il va réussir ultimement.
Mais juste finir avec l'acteur, par contre, qui fait le général.
Oui.
Il est viril en mousse. C'est l'archétype japonais Toshiro Mifune. Un peu comme Toshiro, dans le fond. Tu sais, quand Toshiro jouait les samouraïs, pas comme dans Seven Samurai, mais plus tard, comme dans Yojimbo, puis dans Redbeard, puis qui était médecin, etc. Ou dans ces films-là, ce qui faisait le samouraï était un peu moustachu, viril à fond au japonais, qui est la virilité nippone, là, incarnée. Ben, c'est un peu ça qui joue l'amiral Taizo.
On sait qu'il est viril parce qu'il y a un pinch.
Ah oui, oui, puis ça arrache des hot, l'acteur, quand même. Moi, tu sens que lui peut take down Godzilla.
Oui, oh, yeah, c'est ça que j'ai remarqué aussi. Il commande le respect, puis tu sais que c'est l'homme de la situation.
C'est rare, ça. Il y a très, très peu de films de Godzilla que t'écoutes, puis t'es un acteur principal. D'habitude, toujours un jeune. C'est quasiment tout le temps un jeune qui était un pop singer, autant les années 80, 90, ou pire dans Final Wars, tout du monde extrêmement jeune, de genre 18 ans, tous des pop singers, tu sais, androgynes à fond.
Ah,
là,
littéralement, ça, c'est vrai, ça.
Mais dans celle-là, dans GMK, c'est un homme. C'est, ça fait du bien, parce que on se tanne un peu des chanteurs pop là qui battent... On croit pas qu'ils vont battre Godzilla, tu sais.
Ouais, en effet, ils sont trop beaux, ils sont trop talentueux. Et ça fait à peu près plusieurs minutes qu'on flatte ce film-là dans le sens du poil. Faudrait peut-être remettre à César ce qui appartient à César, puis parler un peu du réalisateur qui a fait tout ce beau travail-là pour nous faire avoir un merveilleux moment de Godzilla. Alors absolument, c'est réalisé par Shusuke Kaneko. Kaneko, je pense que c'est le meilleur move que Toho Productions aurait pu faire pour aller chercher un réalisateur qui a de la gueule pour réaliser un film de Godzilla. Parce que, Fred, faut que tu développes là-dessus, ce gars-là, derrière la cravate, depuis le milieu des années 90, il a été le réalisateur d'une trilogie qui a été aussi un reboot d'un autre monstre géant très connu au Japon, qui est Gamera. Gamera, qui était une espèce de grosse tortue gigantesque mutante, qui roule depuis aussi les années 60. Kaneko a réalisé une superbe trilogie de 1995 à 1999, qui a vraiment remis Gamera au goût du jour et qui a marché énormément autant au box-office qu'avec le public, qu'avec les critiques. Carrément, t'es as-tu vu, toi?
En fait, je les ai vus, mais avant que j'arrive à ça, ça n'a pas marché tant que ça au Japon. Mais je reviens à une petite histoire derrière Gamera, pour les gens qui connaissent moins. Comme Seb disait, c'est une tortue géante atomique qui se transforme en soucoupe volante, dans le fond. Concept qui est absolument ridicule, qui a été inventé les années 60 comme en réponse à Godzilla, dans le fond, par une autre compagnie qui était la compagnie Daei. Et le problème Gamera les années 60, que j'aime bien, c'était des films vraiment pour enfants. Là où Godzilla commençait à dégénérer puis devenir de plus en plus des films de kaiju pour enfants, Gamera a commencé dès le premier film avec un petit enfant qui était ami avec Gamera qui courait après. C'est quand même une sorte de film d'horreur qui tuait des gens Gamera, mais c'était relativement enfantin puis ça a dégénéré vraiment vite au point que Gamera faisait des flips athlétiques.
Ouais,
je me souviens.
Je m'en souviens.
Il y avait la chanson Gamera, Gamera, 1, 2, 3.
C'était très family friendly.
C'était l'ami de tous les enfants, Gamera. Pis c'était même dans la chanson. Que c'était Gamera, l'ami de tous les enfants. Et c'est des films qui étaient vraiment cheapettes à fond, que MST3K, on niaisait beaucoup.
Oui, Mystery Science Theater.
Mystery Science, exactement, merci. Puis quand Kaneko l'a pris, c'était quand même tout un défi, parce que Kaneko est un énorme fan de Godzilla, mais il était jeune à l'époque, il avait fait, je pense, des soft porn, une couple de films, tu sais.
On commence tous là.
Fait que c'était pas le plus grand réalisateur, même s'il avait beaucoup de talent, mais le monde ne savait pas. Fait qu'il a pris Gamera. Daei, ils n'ont pas donné un énorme budget, puis c'était pas le succès qu'on s'attendait comme Godzilla était, qui était encore très populaire dans les années 90 avec Vossus Destoroyah. Et quand Gamera est sorti le premier de sa trilogie, ça l'a surpris le Japon. Parce que, c'était plus réaliste. Les effets spéciaux étaient vraiment cool, faits par Shinji Higuchi, je vais revenir après, qui est okay. Un des grands gars d'effets spéciaux, qui d'ailleurs a fait Shin Godzilla. Et le premier Gamera a été quand même un assez gros succès au Japon. Peut-être pas autant que les Godzilla AC, mais quand même assez gros. Après ça, le deuxième est sorti, qui était personnellement encore meilleur, qui était un succès aussi. Puis ça a fini la trilogie, que lui a réalisé les trois films. Tous les effets spéciaux faits encore par le même gars, Shinji Higuchi. Et le troisième film, qui pour moi est dans le top 3 des meilleurs films.
Revenge of Iris.
Revenge of Iris, qui est dans le top 3, est meilleur pour moi que tous les films de The Kaiju Twitter. C'est un excellent film.
D'ailleurs, j'ai juste vu deux films de Gamera dans ma vie. Puis
t'as pas vu la trilogie
complète?
C'est ça,
complète. Puis tu m'as appris que un des deux seuls que j'ai vu, c'était ce Revenge of Iris là. L'autre que j'ai vu, c'est Gamera the Brave.
Ah, ok, ben tu écouteras les deux premiers, ça va. Je t'apporterai, je l'ai en Blu-ray. Regardez, okay. J'ai toutes les Gamera en Blu-ray, les Cam 15 là.
Je vais prendre celui où est-ce qu'il fait des flips autour genre d'un poteau.
Seb, tu vas te triper.
Avec plaisir.
On se fera un petit marathon, puis s'il y en a qui veulent, vous nous demanderez. Mais dans le troisième Gamera, c'est le plus épique, c'est sombre à fond. Gamera a perdu son humanité. Il se bat contre des monstres, les Jaihas, il tue du monde en même temps. C'est chaotique. Les effets spéciaux sont superbes. Je dirais même qu'ils sont meilleurs que Godzilla 98. Ça a super bien vieilli. Bien meilleur que GMK aussi en passant. C'est un film qui a été très bien reçu ici en Amérique du Nord, mais qui a floppé totalement au Japon. Parce que les gens aimaient Gamera parce que c'était un héros. Et soudainement, tu as présenté un Gamera qui s'arrachait le bras à la fin pour se battre. Il est tellement badass là-dedans à la fin qu'il s'arrache son bras pour secourir le monde. C'est tellement bon. Mais au Japon, c'était trop dark. Ça l'a floppé. Puis ça l'a laissé le futur de Kaneko en doute, qui est très dommage, puis ça a arrêté la trilogie de Gamera à cause de ça. Qui est très triste quand même, là, tu sais, en pensant que c'était si bon que ça.
Ouais.
Et par la suite, ils ont fait Godzilla 2000, Vegas Megaguirus, on dit, on va engager ce gars-là qui a fait une trilogie qui est bien en dessous de nous, parce qu'ils ont toujours vu comme Gamera comme un produit inférieur à Godzilla. Toujours. Fait qu'ils ont engagé Kaneko, c'est parce qu'il montrait un peu de potentiel. Ils ont même pas laissé engager son gars d'effets spéciaux de sa trilogie. Ils voulaient pas. Ils leur ont dit, tu vas prendre notre gars habituel, qui était déjà décevant à Kaneko, parce que malgré ses effets spéciaux sont très bien en GMK, ils sont pas aussi bons que dans Gamera 3. Et ils ont laissé reprendre son même musicien, et je crois son même directeur photo aussi, je me trompe pas. Mais, c'était quand même pas aussi bon. Toho sont très difficiles. Toho sont du genre à dire quoi faire. Ils contrôlent leur franchise. Ils contrôlent l'image de Godzilla. Ils veulent jamais que Godzilla aille trop loin. À part pour Shin Godzilla, qui était étonnant, mais on pourra en revenir plus tard. Mais pour ce qui est de GMK, Kaneko, il a pas pu faire sa propre vision. Le film est quand même excellent. Ça montre à quel point il y avait du talent, Kaneko, pour faire un des meilleurs films Godzilla. Mais s'il aurait pu faire sa vision avec son gars d'effets spéciaux, t'aurais probablement eu un des grands Godzilla.
Parlant de la réalisation de Kaneko, moi, on peut peut-être y aller avec un petit extrait que moi, je trouve formidable, histoire de mettre les gens dans le mood, carrément. Moi, j'ai toujours trippé sur les dialogues de ce film-là, carrément. Je les trouve super bien écrits. Et je voudrais juste te montrer une petite scène dans laquelle il y a un dialogue absolument incroyable, personnellement, qui m'a grandement marqué, puis qui fait en sorte que si on le rate, on perd un peu l'essence du film, carrément. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on écoutait ça ensemble? OK, c'est parti. C'est poignant.
C'est du dialogue, ça.
Écoute,
Oscar material.
Ah, c'est incroyable. Si seulement je pouvais faire des choses aussi formidables.
Mais on sent l'émotion dans Godzilla quand il crie, tu sais.
Incroyable. Félicitations à Shusuke Kaneko qui, encore une fois, appliqué la recette qu'il a appliquée dans ses Gamera, nous donner quelque chose d'un peu plus dark, une espèce de réinvention temporaire de ces personnages-là. Et ça a marché. Honnêtement, moi, je suis un spectateur qui aime quand on me brasse un peu les pièces d'un même concept pour montrer quelque chose de différent. Ça a parfaitement fonctionné. Alors, merci Kaneko d'avoir fait ça.
Un des trucs vraiment difficiles quand tu fais des films dans le genre avec des Maninsu et très peu de budget, c'est les effets spéciaux. Et tôt, souvent, toute la série complète de Millennium se sont plantées. Chaque fois, ça faisait chipette en arrière de temps, etc. Mais GMK, tout comme les Gamera, même si c'était pas tout à fait aussi bien fait, et même s'il y avait pas le même gars Gamera, il y avait comme l'assistant à l'effet spécial de Gamera, mais pas le main guy, dans le fond, Shinji Gucci. Malgré ça, il reste que lui co-réalisait les effets spéciaux Kaneko, puis il connaissait quand même ce qu'il faisait. Puis les shots, là, tu sens que chacun des plans de vue sont placés d'une manière pour que tu crois.
Il y a un mélange de plusieurs techniques. Il y a, bien sûr, les miniatures, encore une fois. Il y a aussi un mélange de miniatures et d'effets visuels par ordinateur. Il y a, à quelques petits moments isolés, des shots complètement en CGI. Je pense à ce fameux plan où est-ce qu'on voit Godzilla en train de nager sous l'eau. Ouf, qui est pas très, très bon. Non, on dirait que ça sort des graphiques de PlayStation 1, de Tomb Raider 2.
Et c'est qui est bon de prendre le Men in Suit, quelques miniatures, quelques vrais décors, où est-ce que tu vois genre la ville qui est un peu tournée et des humains passant en avant. Ça paraît quand c'est seulement un set avec des main suits. Fait que quand tu rajoutes un avant-plan de genre un vrai building puis quelques gens qui courent, qui grouillent dans le coin, qui crient « Godzilla, Godzilla », ça te montre le scale, la grandeur. Ça t'aide beaucoup à comprendre ce que tu regardes, que Godzilla est géant. L'illusion reste.
En effet.
Puis c'est ce que Kaneko était très bon. Pareil que la trilogie de Gamera, puis c'est ce qu'il avait perfectionné. Puis c'est ce que le réalisateur d'après celui-là totalement raté.
Quand
Kaneko est parti. Tu vois, en passant, j'étais assis deux bancs à côté, comme je disais tantôt. Là, juste en y repensant, mon cœur bat plus vite.
C'est incroyable. Ah. On peut parler un peu de la musique de ce film-là. Moi, personnellement, dans l'ordre, j'avais vu Godzilla versus Megaguirus avant d'avoir vu GMK. Après avoir vu ça, je me suis dit, la personne qui va faire la musique dans GMK a des Christie de gros souliers à chaussée. Parce que la bande sonore de Godzilla versus Megaguirus, je la trouve superbe. Elle est très, très bien composée. L'orchestre est en toute explosion. C'est formidable. Vraiment, gros orchestre. Il y a eu un gros budget mis dans la musique de ce film-là. Pour faire comprendre à toi, Fred, puis à nos auditeurs de quoi je parle, j'ai envie de te faire écouter un petit mini extrait d'une composition de la compositrice Michiru Oshima qu'elle avait composée pour Godzilla versus Megaguirus. Pour vous mettre dedans, c'est juste un petit bout d'une pièce lorsque c'est l'affrontement final entre Godzilla et Megaguirus. C'est parti. vraiment une composition professionnelle qui nous donne vraiment un sens de l'action, de l'aspect massif des deux monstres qui se battent. Donc, moi, je la trouve formidable, cette composition-là, de même que sa compositrice.
J'avoue que je m'en souvenais pas du tout, parce que moi, Megagirius, c'était un de mes pires. Tu vois les fils sur Megagirius, tout le film est cheapette. Mais en réécoutant la musique, c'est vrai qu'elle est forte. Puis c'est triste, des fois, quand tu te rends compte qu'un élément est aussi fort, mais dans un film qui est aussi faible.
Oui. Ben, d'après moi, ça a réussi à faire élever le contenu du film aussi.
Donnant envie de réécouter.
Avec GMK, comme je disais, ben, les souliers étaient très, très grands à chausser pour Ko-Otani, qui est vraiment le compositeur habituel de Kaneko, même qui continue à suivre en 2018 et tout ça. Donc, c'est vraiment ces deux-là sont tapés ensemble.
Il a fait Death Note aussi, les Death Note de Kaneko?
Oui, il a fait les deux Death Note, effectivement. Puis, il a fait la trilogie Gamera aussi. Et ben, on sent que pour GMK, ben, le budget a pas vraiment été mis complètement dans la musique, honnêtement, parce qu'on dirait que c'est vraiment une arrière-pensée, la musique. Otani réussit à faire des miracles avec les moyens qu'il avait. Moi, ce que j'aime beaucoup dans une bande sonore de film, c'est quand les personnages ont des thèmes à eux autres, ont des sonorités composées juste pour eux autres qui vont venir dans le film. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce film-là. Chacun des monstres a son petit thème. Et Fred, j'ai envie qu'on l'écoute ensemble, ouais, carrément. J'ai envie de te faire voir ces petites subtilités-là. On va commencer par le thème de notre protagoniste, c'est-à-dire Godzilla. Un thème vraiment pour faire comprendre aux gens qui est méchant et qui niaise pas avec le POC. On sent encore du poids, on sent que ça parle de quelque chose de lourd, de méchant, de diabolique. Donc, c'est le thème de Godzilla. Baragon aussi faible soit-il, aussi sous-utilisé dans le film soit-il, Otani lui a donné son propre thème, un peu moins mélodique que celui de Godzilla, mais je vous le fais entendre quand même. On sent énormément le synthétiseur, puis on sent un peu que c'est dépareillé. Il n'y a pas vraiment une mélodie qu'on peut siffler après avoir vu le film. Tu sais, c'est vraiment un peu de bruit ici et là, un peu selon l'importance de Baragon.
Ça me fait rire parce que moi, je trouve que c'est un des Godzilla que je me souviens plus les tunes
qui m'ont resté. En fait, non, mais c'est cool. Otani a fait sa job carrément. Comme je te dis, avec les moyens qu'il avait, il a réussi à faire quelque chose.
Moi, c'est un autre tune, je me souviens pas. Je sais pas si celui-là, mais c'est plus la tune héroïque.
Oh, ça s'en vient.
Ah, ça s'en vient. Excuse-moi, vas-y.
On y va aussi avec, Mothra, un thème aussi. Et personnellement, je trouve très bien le thème de Mothra. Honnêtement, je le trouve très beau, très doux, très ce que représente Mothra, c'est-à-dire une présence bienfaisante, une présence protectrice. On écoute un petit peu ça. C'est la première fois où on entend ce cue-là, c'est une très belle scène où est-ce que Mothra passe par-dessus une rue bondée de gens. On la voit pour la première fois dans toute sa splendeur, puis elle s'en va vers la bataille carrément.
C'est un remix aussi de la toune de Mothra
original. Bonsoir, chanté par des petites jumelles.
Mais tu le sens un peu dans... C'est vrai, c'est un très bon remix, je trouve ça.
Effectivement, il se l'est bien approprié, c'est cool. Et ben, non le moindre, il y a King Ghidorah aussi qui a son thème aussi, qui est très simple. C'est mené plutôt par des cœurs masculins. On l'écoute un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Donc, on sent vraiment quelque chose de très ancien. Comme on le voit dans l'exposition du film, c'est vraiment les personnages, c'est-à-dire le monstre avec le plus de background dans lequel c'est vraiment un dragon protecteur, un dragon très ancien, très sage. Et ben, comme tu le mentionnais tantôt, on a aussi un thème pour les humains, que j'ai baptisé un peu le thème du sacrifice, qui joue pendant que les humains font vraiment des trucs pour tenter de tout donner pour détruire Godzilla. Alors, on peut l'écouter, voir qu'est-ce que ça donne.
Ouais, c'est ça que je trouvais bien, moi, c'est que la plupart des soundtracks des films de Godzilla, c'est ça recycle la musique originale de...
Ah, tout à fait.
Comment est-ce que c'est? Ikifube?
Oui, Ikifube, c'est Ikifube. Ça. Écoute, le nombre de fois dans les anciens films où t'entends le thème de Rodan 50 fois par film...
Mais même dans les années 80, parce qu'il est revenu les années 80-90 pour recomposer quelques-uns des soundtracks. Puis malgré que je l'adore, puis j'adore ces vieilles musiques-là, c'est le fun de les ramener. Je trouvais que GMK allait avec son propre soundtrack. Il faisait pas simplement refaire la même chose, qui est comme la tune qu'on vient d'entendre, justement, héroïque, là. Je trouve qu'elle se démarque quand même assez bien. Peut-être parce que j'ai vu le film souvent, puis c'est un de mes préférés, mais je m'en rappelle quand même assez bien. Et je sais pas, ça rajoute beaucoup, moi, je trouve, au film. Puis à la fin du film, oui, le film finit sur la toune originale de Godzilla.
Exactement. C'est ça, le thème classique.
Mais ils mettent pas pendant le film, puis je trouve qu'ils gagnent son thème. Parce qu'à la fin, quand ils mettent, ça verge, puis t'applaudis. T'sais.
En effet, t'as parfaitement raison, c'est ça. Donc, c'est encore une fois un des points qui fait l'unicité de ce GMK-là, qui réussit à le démarquer, encore une fois, de tous les films qui viennent avant et qui viennent après aussi. C'est ça qui est cool. Alors, encore une fois, ben, chapeau à Otani d'avoir fait ce qu'il pouvait avec le budget qu'il y avait, avec les instruments qu'il y avait. Puis, écoute, on en parle, il a fait quelque chose de mémorable. Moi, le thème de Godzilla ou de Mothra, je le siffle depuis 3 jours quand je marche dans la rue. Là, tu sais, fait que ça a quand même, ça a fait son effet.
Pour ceux qui veulent entendre un peu plus de ses œuvres, je conseille fortement chez le jeu vidéo Shadow of the Colossus.
Ah oui, c'est lui qui l'a fait, ben oui.
La musique est incroyable, puis pour ceux qui veulent pas jouer au vieux jeu de PlayStation 2, qui joue encore très bien, soit dit en passant, il a fait un remaster HD sur le PS3. Exactement. Qui est disponible. Mais ils viennent de faire un remake tout récemment sur la PlayStation 4.
C'est sorti cet automne, oui.
Exactement. J'ai pas joué, moi, mais j'ai vu les extraits, mais ils ont gardé la musique originale, d'après ce que je disais. Puis le jeu vaut vraiment la peine. C'est encore une fois un jeu avec des monstres géants, fait que ça fait bien avec le fait que c'est lui qui a fait la musique de Gamera.
Là, ben, écoute, on s'en vient vers la fin tranquillement, Fred.
Ah,
ouais. Fred, moi, je veux qu'on parle un petit peu de Godzilla et de l'état des choses, ok? Parce que ce qui est amusant, c'est que Godzilla, il est présent avec nous plus que jamais depuis, mettons, 2014 avec la version américaine, cette nouvelle version de Legendary Pictures. Et depuis peu de temps, depuis fin 2018, jusque dans le futur, autour des années 2020 et plus, il va être avec nous autres quasiment à chaque année. C'est ça qui est formidable. Alors, on peut peut-être parler des produits qui vont s'en venir tranquillement, pas vite, de Godzilla. En premier, ben, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu... Moi, je veux me servir de tes antennes que t'as en Asie, genre au Japon, quelque chose du genre. Le dernier film à être sorti, produit par Toho, c'était Shin Godzilla. Je sais que tu l'as bien aimé. Moi, ça a été un petit peu plus mitigé. Mais ultimement, est-ce que tu sais si Toho prépare quelque chose, une espèce de suite à ce reboot-là, encore une fois, de Godzilla avec Shin Godzilla? Est-ce qu'il y a des projets, selon toi, t'as entendu quelque chose?
Oui, j'ai lu sur le sujet un peu. En fait, un peu, je lis chaque fois qu'il y a une nouvelle, je suis au courant, pour être franc. En fait, c'est un peu compliqué. C'était que quand Toho ont négocié les droits avec Legendary Pictures, ils cédaient les droits de Godzilla, et tant que Legendary Pictures avait pas terminé leur contrat, qui était jusqu'au... Je pense qu'il y avait un contrat de 3 films, donc jusqu'à King Kong Godzilla, qui était pas privé à l'époque, mais c'était seulement un contrat, je pense, de 3 films, enfin, genre là. Toho pouvait pas vraiment sortir un film. La seule raison qu'ils ont réussi à sortir Shin Godzilla, je me rappelle bien, c'est parce qu'il était déjà en développement avant que 2014 sorte. Fait qu'ils ont pu sortir Shin Godzilla, ils ont même prendre leur temps, parce que le développement a pris plus de temps que n'importe quel autre film de Godzilla depuis genre, je sais pas moi, 40 ans, tu sais. Oui, ils ont vraiment pris leur temps, là.
Il y a tellement de scènes, genre de bureaux pis de politiciens qui parlent. C'est probablement ça qu'il a pris tout le temps.
Non, mais je veux dire, le scénario a été travaillé et retravaillé et retravaillé parce que c'était Anno, le créateur de Neon Genesis, puis il est très perfectionniste. Puis quand t'écoutes le film, ça paraît parce que côté effets spéciaux, c'est assez bien fait quand même. Puis le scénario est très bien soigné. Puis c'était très courant par rapport à ce que le Japon était avec l'accident de Fukushima, là.
La centrale nucléaire qui avait sauté, après les tsunamis, ouais.
Fait que c'est ça. Fait qu'ils sont un peu pris dans quelque chose en ce moment. Toho, ils peuvent pas faire un autre film. Fait qu'ils en ont profité pour sortir la trilogie animée. Parce que là, en ce cas-ci, c'était différent. C'était des dessins animés. Fait que là, ils pouvaient les sortir. Je te laisserai revenir là-dessus tantôt. Mais là, leur plan, c'est qu'en 2021, après la sortie en 2020 de Godzilla vs. King Kong, en fait, ils devraient s'appeler Kong vs. Godzilla. Parce qu'ils ont pas vraiment les droits de King Kong. Fait qu'ils l'appellent Kong. C'est un peu compliqué. Je rentrerai pas là-dedans. Même moi, pour être franc, je suis pas trop sûr de comprendre à 100%. Mais, en tout cas, après ça, les droits reviennent à Toho. Est-ce que Toho vont renégocier avec Legendary Pictures pour qu'ils puissent faire d'autres films? Personne ne sait. C'est pas encore mentionné. Je me dis, ça va dépendre du succès
de King Kong vs.
Exactement. Mais là, Toho ont déjà annoncé que leur plan, après le succès de Shin Godzilla et de l'univers Legendary Pictures, mais aussi de Marvel Studios avec leurs films, ils veulent créer leur propre Shared Universe, Cinematic Universe, que tout le monde veut faire ces temps-ci, malheureusement.
Ouais, c'est la mode, ça, avec plus ou moins de succès, ouais.
Avec Dark Universe qui a planté, Transformer qui est mort avant même que ça ait commencé. Puis Toho sont un peu les peut-être pas les originaux, parce qu'il y avait eu les Universal Monsters dans les années 30 qui avaient déjà commencé à faire ça, mais dans les premiers, où est-ce qu'il avait introduit à l'époque Godzilla. Après ça, il avait sorti un film de Rodan qui avait aucun lien avec Godzilla. Il avait sorti un film de Mothra qui avait aucun lien. Puis là, c'était mis par la suite de faire un film Godzilla versus Mothra, ce qui avait clashé deux de leurs monstres ensemble. Rodan avait apparu un autre film. Il avait fait d'autres films. Tous des films séparément qui avaient aucun lien avec Godzilla, puis qu'ils avaient rassemblé dans Destroyer Monsters. Fait qu'il y avait déjà cette espèce d'univers-là cinématique à l'époque. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'il a annoncé qu'en 2021, il veut aller chercher pas juste un budget plus gros, mais une audience plus gros. Eux autres veulent vraiment faire une coproduction avec la Chine, avec, t'sais, un peu partout dans le monde pour sortir des films internationaux, plus que ce que c'était à l'époque. Même Shin Godzilla, Shin Godzilla est très, très japonais. Ça parle de problèmes japonais. Le public cible était vraiment un public japonais. C'est pour ça que ça a fonctionné beaucoup là-bas. Ça a remporté, soi-disant, 80 millions de dollars américains en tout. Puis ça, si on regarde par rapport à GMK qui avait remporté 20 millions, qui est considéré comme le plus gros succès des films de Godzilla des années 2000, et l'autre a remporté 80 millions, donc c'est un très gros succès. Mais j'en reviens, eux autres veulent faire des films plus gros. Fait que là, ils avaient annoncé qu'ils voulaient faire un film tous les deux ans. Mettons un film de Godzilla, après ça un film peut-être de Rodan, un film de Mothra, après ça faire le Infinity War, le Civil War des films de Godzilla. C'est un peu leur idée, peut-être même chaque année même qu'ils avancent. Moi, je trouve ça intéressant.
Oui, moi aussi, je souhaite que ça se fasse. Ils peuvent le faire, ils ont pas d'interférence, c'est leur jouet, ils peuvent jouer comme ils veulent avec.
Mais c'est dangereux parce que c'est une chose que j'ai appris avec Toho, c'est que souvent quand ils rushent leur film, ils se plantent. Et là, avec Shin Godzilla que j'ai adoré, la raison que ça a marché, c'était pas à cause, c'était deux réalisateurs sur le film. C'était Anno, le créateur de Neon Genesis Evangelion, qui a écrit le film, qui est en fait vraiment le vrai réalisateur, et son meilleur ami qui est avec lui depuis le tout début, qui est Shinji Higuchi, qui a fait des effets spéciaux de Gamera, la trilogie, qui est excellent, puis qui est venu co-réaliser avec Anno sur tous les effets spéciaux. Lui, en fait, il avait réussi à faire ses premiers films avec The Submerged of Japan, je pense, qui était un film que tout le monde dit était vraiment pourri. Et encore pire, c'est lui qui a adapté Attack on Titans, les deux films qui sont incroyablement pourris, qui sont dans les pires adaptations que j'ai vues, à part quelques effets spéciaux pas pires. Même à ça, même s'il est bon que ces effets spéciaux, tu voyais qu'il y avait un réalisateur qui dirait, tu peux pas mettre tout ça, c'est trop d'effets spéciaux, c'est trop de green screen, ça marche pas. Fait que là, ma plus grande peur, c'est que Toho se mette à engager du monde comme lui pour réaliser les films, du monde qui sont pas très bons en réalisation, puis qui fassent des films un peu pourris. Parce qu'à nous, on reviendra pas, là. Shin Godzilla 2, ça arrivera jamais. On a déjà annoncé que c'était trop sombre pis qu'il y aurait pas une suite parce que ça marcherait pas Shin Godzilla dans l'univers cinématique. Fait que c'est un peu les plans. Fait que c'est pas trop sûr, c'est ouais. Ce que Toho veut faire, mais...
J'espère qu'ils ont encore le numéro de Kaneko à quelque part dans leur petit bottin de téléphone.
Oui, parce que moi, pour aller plus loin que ça, l'ultime film que je voudrais que les Japonaises fassent, Toho en particulier, ça serait Godzilla versus Gamera. Par Kaneko, parce que quand ils ont fini Gamera 3, ça finit sur un to be continued Gamera qui est le ultimate badass hero. Puis dans GMK, Godzilla était le ultimate villain badass. Fait que l'idée que Kaneko reviendrait, qu'il prendrait son univers de Gamera, qu'il ferait Gamera 4, qu'il rencontrerait GMK 2, puis que où est-ce que Godzilla est méchant et Gamera est gentil, c'est parfait. Malheureusement, quand Kaneko et Dae en avaient parlé à l'époque, Toho avait ri, il avait dit non. Dae et Gamera sont en dessous de nous.
Ah ben ça va être une négociation de droits, d'utilisation de personnages et tout ça. Je pense qu'il va y avoir pas mal de discussions sous la table, mais tout est possible de nos jours si ça peut permettre à ces studios-là de faire de l'argent, etc., donner en plus aux spectateurs ce qu'ils veulent depuis des années. Parce que moi-même, je me suis demandé, genre, j'ai pas fait mes recherches, mais aujourd'hui, je me disais, ils sont-tu déjà rencontrés ces deux-là? Non. Apparemment non, fait que ce serait peut-être le temps. Si tu veux faire un méga événement, tu sais, ils voient que les Américains font rencontrer Godzilla et King Kong, ben pourquoi est-ce qu'ils feraient pas la même chose
mais
de leur côté
au Japon?
Mais
c'est ça le problème, Toho voit pas ça comme un méga événement. Pour eux, Godzilla contre Mothra est un plus gros événement que contre Gamera. La seule manière, je pense, que ça va arriver, c'est si un peu comme Disney sont en train d'acheter Fox, c'est si Toho ajouterait Dae. Okay. Et Dae ont des gros problèmes, soit dit en passant, ils font pas beaucoup. Ils ont essayé de faire un nouveau Gamera récemment. Ils avaient fait une bande annonce, je sais pas si ça dit quelque chose. Si t'as la chance de le voir, c'est vraiment incroyable, okay. Là.
C'est un sizzle reel, quelque chose.
Ouais, ouais, ouais. Puis c'est vraiment bon. Puis ça avait beaucoup de potentiel. Puis ça fait peut-être 4 ans de tout ça. Puis c'est jamais abouti. Okay. À mon avis, ils ont pas trouvé d'investisseur. Puis ça a juste pas donné. Qui est bien triste.
Ben, comme disait RBO, ben, c'est à suivre. Ensuite, deuxième produit qu'on a de nos jours, qui est pas mal plus accessible au public nord-américain, c'est sur Netflix, c'est les deux premiers opus de la trilogie de Godzilla sous format d'animation, carrément. On a le premier opus qui est sorti qui s'appelle La planète des monstres, et le deuxième qui est Dans le feu du combat. Donc, animation typique japonaise dans laquelle ben, ça se passe dans le futur, où est-ce que le Japon a dû être évacué distribuer de la terre carrément parce que Godzilla est beaucoup trop puissant et détruit tout sur son passage. Alors là, il y a une exode vers l'espace. Finalement, les gens dans les vaisseaux spatiaux, ils se rendent compte que c'est un climat dégueulasse dans lequel ils vivent, qui ont plus de ressources. Alors ils tentent de refaire un saut sur la terre en espérant que Godzilla soit mort depuis des années pour aller en fait réhabiter la terre. Et finalement, c'est pas ce qu'ils pensent. Godzilla est toujours là. Ils tentent de le détruire. Finalement, ça fonctionne, mais comme cliffhanger, à la fin, il y a encore plus gros Godzilla de 300 mètres de haut qui sort, qui était dormant sous la terre. Et c'est ça que les humains doivent combattre dans Godzilla, dans le feu du combat. Il y a de légères références à un Mecha Godzilla qui n'en est pas un non plus. Ils ont amené le concept dans une avenue complètement différente. Et là, on attend le troisième, personnellement, que moi, en voyant la petite scène cachée à la fin du deuxième, j'ai levé les bras dans les airs en disant « Youhou !» parce que ça annonce l'arrivée de King Ghidorah, le destructeur de monde, qui viendrait probablement prêter main forte aux humains pour combattre ce Godzilla Earth-là. La seule petite chose que j'espère que c'est pas une métaphore comme Mecha Godzilla, puis que genre King Ghidorah, ce serait une météorite ou quelque chose du genre. J'espère que c'est pas ça.
Ouais, parce que moi, j'ai beaucoup aimé la trilogie, puis j'avais aucune attente au début, parce que l'animation japonaise en 3D, je trouve ça très mal fait.
Ouais, ben, 99... Godzilla est juste du 3D là-dedans.
Là, ouais. Oui, ben, mais les humains en 3D, l'anime, le faux anime, là, qui a des séquences FMV d'un jeu vidéo, ouais. Dans le fond, là, ça m'écœure. Mais, ça m'écœure. C'est un peu fort, les mots. Mais, en fin de compte, j'ai bien aimé. Puis, comme toi, par contre, dans le deuxième film, tu sais, j'avais bien hâte de voir Mechagodzilla se battre. Puis là, ils sont arrivés avec un nouveau concept qui est quand même très intéressant.
Mechagodzilla City!
Oui, exactement. Puis qui était avec la nanotechnologie. Puis c'était une autre manière que je trouvais que était super intéressante. Je suis vraiment dedans. Mais je voulais quand même voir Mechagodzilla à la fin
aussi,
se lever.
Moi aussi.
C'est pas arrivé. Fait que là, le fait que King Ghidorah arrive dans le prochain film, puis qu'il est finalement de retour comme le Destructor of the Walls, il mentionne qu'on a détruit des parce qu'il y a des extraterrestres aussi dans cette trilogie-là, puis eux autres mentionnent que Ghidorah avait détruit leur planète à l'époque. Fait que finalement, on ramène la terreur absolue de King Ghidorah.
Comme je te dis, j'espère que King Ghidorah, c'est pas genre un vaisseau Transformers ou une métaphore.
Ou comme Galactus dans Fantastic Four 2, qui nuage. Était un nuage. Tu sais, une niaiserie dans ce genre-là, ou une étoile maléfique, ou je sais pas trop, tu sais. Puis quand tu vois le poster, il est comme en feu. Je sais pas si t'as vu le poster.
Oui, je l'ai vu absolument.
Puis ça me fait un petit peu peur. Le poster, là, cool, mais quand tu dis, c'est-tu vraiment ça, une espèce de feu phénix, un Ghidorah phénix en feu qui détruit les planètes, je sais pas.
On va devoir attendre au mois de novembre pour en juger par nous-mêmes, mais pour l'instant, même si c'est ça, même si c'est pas King Ghidorah dans sa forme traditionnelle, au moins on pourra pas blâmer les créateurs de pas avoir amené quelque chose de nouveau au moulin pis tout le kit.
Alors, puis ils sont sombres comme film, hein. C'est de loin les films les plus sombres de Godzilla. Encore plus que Gojira, encore plus que Shin Godzilla. C'est sombre, c'est là. Ça, tout le monde meurt. La civilisation est détruite. Sa blonde, elle meurt, le héros. C'est sombre comme ça a pas de bon sens.
Godzilla est extrêmement dangereux et méchant là-dedans. Vraiment invincible. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le trois quarts du film, des fois, je les trouve passables. Je trouve les dialogues souvent ridicules, mais les séquences d'action à la fin, où est-ce que les humains mettent leur plan à exécution pour essayer de défaire Godzilla, c'est bien mené, ça. Il y a du suspense là-dedans, puis t'espères à la fin que hey, ça va-tu marcher? Est-ce qu'ils vont le battre, Godzilla? C'est ça, un des points forts du film, carrément. C'est bien mené, c'est excitant vers la fin, c'est visuellement extrêmement intéressant. C'est gratos sur Netflix, alors regardez la gang. Allez regarder ça.
Godzilla est majestueux. Là-dedans. Il est titanesque. Pas juste le fait qu'il est gigantesque, mais tu sens la pesanteur.
Ah, littéralement.
Un peu comme dans le remake américain.
On dirait qu'il marche au ralenti, littéralement, tout le temps.
C'est une montagne, là. C'est très bien fait.
Maintenant, tu sais, Fred, qu'à pareille date, l'année prochaine, il va y avoir un autre film de Godzilla sur nos écrans nord-américains. Ça va être la suite de Godzilla 2014 qui avait sorti Legendary Picture. Donc, il nous amène Godzilla, King of the Monster, qui est leur deuxième opus de leur fameuse trilogie qui va culminer en 2020 avec l'affrontement, comme tu l'as mentionné, Kong versus Godzilla. Et là, on a eu droit, avec le Comic-Con américain à San Diego, on a eu droit à une bande-annonce de ce King of Monster-là, ma foi, qui est majestueuse.
Incroyable.
Je la trouve formidable, cette bande-annonce-là, honnêtement. Là, elle te donne tout ce que tu veux. Ça aurait pu être un petit teaser trailer vraiment poche, où est-ce qu'on voit juste la face de Godzilla où t'entends juste des bruits. Non, il nous donne, tu sais, en anglais, they give us the money! On voit tout, on voit, genre, des merveilleuses perspectives de tous les monstres qui vont être là, parce qu'il va y avoir Godzilla, bien sûr, mais il va y avoir également Rodan, Mothra, ainsi que King Ghidorah qui va être là, et peut-être plus, on sait pas trop, on verra tout ça. T'avais aimé la bande-annonce?
Moi, j'ai eu un mois de juillet très, très difficile, que je rentrais pas dans les airs, mais ça a été dur. Et quand j'ai finalement vu la bande-annonce, j'ai pleuré. J'ai pleuré à flot. C'est un peu comme toute l'émotion était sortie en même temps d'un mois. Probablement ma meilleure balance de tous les temps. C'est tout ce que je voulais voir dans le film de Godzilla. La seule manière que ça peut être topé, c'est King Kong et Godzilla, on s'entend pour moi. Mais ce que j'ai aimé surtout dans la bande-annonce, c'était, en dehors de la musique Clair de Lune, qui est une très belle musique qui est sortie en 1901, c'était le respect pour ces créatures-là. Dans les années 90 et début 2000, t'avais des réalisateurs comme Michael Bay, Roland Emmerich, du monde qui adaptait du matériel sans respecter, qui se sentait supérieur au matériel original, qui faisait un Transformer qui ressemblait nullement à ce que c'était un Godzilla qui ressemblait nullement. C'était une vague d'Hollywood comme ça, jusqu'à ce que J.J. Abrams, une couple d'autres créateurs arrivent dans les années fin 2000, Guillermo del Toro, des fans qui sont dit « on va être fidèles ». Et le Godzilla 2014... très bien passé pour moi. J'ai adoré le film. J'ai pleuré à la fin dans le dernier combat. Et ce que j'avais aimé, c'était le respect que Gareth Edwards et les Legendary Pictures avaient eu pour Godzilla. Il avait introduit deux nouveaux monstres qui étaient des nouvelles créatures, qui étaient quand même bien faites puis toutes, des designs intéressants, mais qu'il y avait quand même un manque de voir les autres monstres de l'univers. Le réalisateur, par contre, du nouveau film, qui s'appelle...
Michael Dougherty.
Merci, Seb, qui est réalisateur de Krampus et Trick or Treat.
Oui, ben c'est un ancien co-scénariste de Bryan Singer sur X-Men 2, sur Superman Returns, entre autres.
Puis, lui est un énorme fan de monstres, puis tu le vois dans ses designs. Pour lui, les designs, c'est très important. Puis quand t'écoutes Krampus, pour ceux qui n'ont pas vu Krampus, ça vaut vraiment la peine. C'est Home Alone, Gone Wrong. Ben, dans le fond, Home Alone, c'est déjà Gone Wrong.
mais là, il y a des monstres.
Mais avec des monstres, ça. Puis, mais les designs de monstres sont incroyables. Sont super hot. Krampus lui-même, tu sens les airs de design puis les creature designers derrière ça sont super bons. Puis quand il est arrivé avec Godzilla, tu vois l'amour complet. Tu sais, les designs sont fidèles, d'après Glimpse que tu vois. Mais pas juste les designs, avec la musique puis le maire qui présente ces créatures-là, c'est magique. C'est comme, regardez, c'est vos monstres d'enfance et on les traite de manière majestueux. Puis moi, à chaque fois, j'ai dû écouter le trailer 20 fois, et à chaque fois, je pleure pas autant que la première fois, mais à chaque fois, j'ai quand même les larmes que je sens.
Moi, ce que j'ai aimé, c'est que tu l'as tellement regardé, tu l'as étudié soigneusement, que tu as trouvé une référence à l'exorciste dedans.
Oui, oui, en fait, il y a une petite scène que tu vois. Il y a quelques scènes de films, en fait, que j'ai remarqué après, mais t'as une scène que tu vois une grotte qui explose, puis dans la grotte, tu vois la statue de Pazuzu de l'exorciste. Fait que là, ça te fait demander, ça serait le fun de voir Pazuzu versus Godzilla dans une suite, ça.
L'exorciste versus Godzilla, ce serait formidable.
Motra possédé, qui tourne sa tête, puis
Le pouvoir du Christ t'oblige,
Motra. Fuck me!
excellent, ça va être formidable. Puis moi, j'ai hâte de voir un peu la dynamique, parce que là, bien sûr, tu vas avoir quatre monstres plutôt qu'un. J'ai hâte de voir ça va être quoi. Est-ce que ils vont tout être l'un contre l'autre? Est-ce qu'il va avoir à un certain moment donné une union avec certains? Moi, je fais un petit pari comme ça, juste à brûle pour point. J'ai l'impression que, bon, il va y avoir certains affrontements, mais individuels, mais je pense que ça va peut-être finir par un 2-contre-2, genre, mettons, Godzilla et Mothra versus King Ghidorah, puis Rodan, parce que encore une fois, je vais juste faire mon petit scénariste, on va juste s'amuser à déblatérer là-dessus. Moi, tu sais, on dit que ce sont, dans la bande-annonce, on dit que ce sont des monstres qui vont venir comme rééquilibrer l'équilibre de la Terre après qu'on ait vraiment comme genre tout scrappé, les ressources naturelles de la Terre, et etc. Ça le dit dans la bande-annonce, genre, on est une maladie et il y a une cure qui s'en vient, il y a une fièvre, c'est-à-dire sous forme de ces quatre monstres-là. Mais c'est quoi l'agenda de ces monstres-là? Est-ce que ce serait pas Rodan et King Ghidorah qui, eux autres, oui, veulent rétablir l'équilibre, mais en supprimant tout ce qui reste de la population humaine, en faisant vraiment une purge complète. Et Godzilla et Mothra, eux autres qui ont plus l'air peut-être de protecteurs, vont les empêcher de faire ça en voulant tout simplement sauvegarder la race humaine pour qu'elle apprenne de ses erreurs et qu'elle fasse les efforts nécessaires pour purger cette terre-là de la bonne manière. Alors, ça va-tu être un 2-contre-2? Je ne sais pas, c'est ma petite prédiction. Je sais pas, ça peut être
mais
autre
le
chose
le trailer
aussi.
Donne un peu, je sais pas si ça va être ce combat-là, mais donne un peu cette impression-là du bon contre le mal, parce que t'as Godzilla qui est un héros, comme dans le premier film, bien sûr. Mothra, qui est un héros encore, tu vois la petite fille de, comment s'appelle, de Stranger Things.
Millie Bobby Brown.
Oui, exactement, qui touche à l'arbre de Mothra, donc Mothra, évidemment, est encore gentil. Mais tu vois, King Ghidorah, naturellement, va être le méchant, il est vu comme l'apocalypse. Mais Rodan, t'as quelque chose, parce qu'il détruit des avions, il détruit une ville, entre autres, fait que déjà, il est présenté comme l'antagoniste. Je pense pas que Rodan va être team-up avec King Ghidorah, par contre. Je pense que, vraiment, Godzilla va tuer Rodan comme en plein milieu pour montrer que c'est un balasse dans le fond, tu sais, puis Rodan, ou peut-être qu'il tuera pas, mais qu'il va le défier. Mais King Ghidorah doit être présenté comme le monstre
gigantesque à la fin, que tout le monde doit se battre contre lui. Il peut pas avoir un team-up parce que c'est lui qui est le plus puissant. Et vu le fait que c'est une sorte de remake de Ghidra de Traded Monster qui était avec les mêmes mots, soit dit en passant, tout le monde était contre lui à la fin. Fait que est-ce que Rodan va se battre contre Godzilla en plein milieu du film, mais qu'à la fin, il va revenir pour aider Godzilla comme il l'a déjà fait plus qu'une fois dans Ghidra et aussi dans Versus Mechagodzilla dans les années 90, est-ce qu'il revenait à la fin pour aider Godzilla? Est-ce que ça va? À mon avis, oui. Moi, c'est ce que je pense.
Les paris sont ouverts, alors le plus cruel là-dedans, c'est qu'il faut attendre un an. C'est ça qui est
chiant. Il y a combien de dodos, Seb?
Ah, on est dans un petit peu moins que 365, c'est ça qui est le fun.
Je pense que c'est fin avril.
Dans ces eaux-là, quelque chose. Ouais. Genre fin avril, début juin, si je ne m'abuse.
Faudrait compter les dodos.
Mais en tout cas, on regardera ça, là. Mais c'est sûr que toi et moi, on y est à la première. Ah, ça, oui. C'est bien sûr et certain. Ça va être assez amusant. Fait qu'on a tous ces mois-là et ces jours-là pour spéculer sur la forme que va prendre, ben, l'affrontement de nos monstres géants préférés. Fred, c'est déjà la fin. Ça a été formidable comme discussion, mais je peux pas te laisser aller sans notre fameux segment traditionnel que j'ai baptisé « Savais-tu, Fred? » Pour ceux qui se joignent à nous, qui sont habitués ou qui, c'est la première fois qu'ils écoutent un épisode de 100 commentaires ou presque, le segment à la fin « Savais-tu? » c'est tout simplement, j'ai été trouver les petites anecdotes d'arrière-scène que moi j'aime beaucoup puis que le public sait pas vraiment. Alors Fred, es-tu prêt? On commence ça tout de suite.
Chou.
Savais-tu, Fred?
Probablement.
Savais-tu, Fred, qu'au début de la conception du film, le réalisateur Shusuke Kaneko voulait que ce soit Anguirus, Varan et Baragon, trois monstres classiques de l'univers du studio Toho, qui soient les adversaires de Godzilla. Mais le studio lui a demandé de remplacer les deux premiers par King Ghidorah et Mothra parce qu'ils sont plus populaires aux yeux du public et plus financièrement profitables au niveau des recettes au box-office. J'imagine que tu le savais.
Oui, je le savais.
Savais-tu, Fred, que très déçu que Varan, son monstre préféré, soit finalement pas dans le film, le concepteur des costumes des monstres du film a fait un compromis en donnant les caractéristiques faciales de Varan aux trois têtes de King Ghidorah. Savais-tu, Fred, que, afin de montrer Godzilla comme jamais auparavant, il a été décidé qu'il se déplacerait comme un vrai lézard, soit avec son corps et sa queue parallèles au sol. Mais l'idée a été rapidement abandonnée parce que le cascadeur dans le costume de Godzilla s'est plaint de nombreux maux de dos. Ainsi, ben Godzilla a finalement pu garder sa traditionnelle posture.
Non.
Savais-tu, Fred, que c'est la toute première fois où King Ghidorah est plus petit que Godzilla dans un film où les deux s'affrontent? Savais-tu, Fred, que certaines maquettes de Tokyo dans lesquelles se passe le combat final du film ont été empruntées par Quentin Tarantino dans le tournage du film Kill Bill Volume 1?
Tu vois, ça, je ne savais pas du tout.
Ben tiens, c'est pour ça qu'on fait cette section-là. Savais-tu, Fred, que tous les cascadeurs qui sont dans les costumes de caoutchouc pour incarner les monstres géants du film ont tous des petits caméos dans différentes scènes du film où on peut voir à quoi ils ressemblent vraiment dans la vraie vie? Par exemple, il y a Mizuo Yoshida, qui incarne Godzilla, qui joue l'homme portant une chemise rose qui se tient derrière les deux jumelles lorsque Mothra vole par-dessus les passants d'une rue. Et il y a aussi Akira Oyashi, qui est dans le costume de King Ghidorah, qui est un grand homme mince dans le bureau du port de Heizu qui assiste à l'arrivée de Godzilla dans la ville.
Non, je savais pas non plus.
Fred, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ça a été un fun incroyable de t'avoir avec moi aujourd'hui.
Merci,
parce qu'on a pu geeker sur un des films qu'on adore. Fait que j'espère vraiment que tu vas revenir. On va se trouver genre dans des discussions, un autre film sur lequel on aimerait discuter. J'espère, comme je disais tantôt, qu'on a réussi à donner à nos auditeurs l'envie de voir ce GMK-là. Alors là-dessus, mes amis, je vous remercie énormément de nous avoir écoutés. Je suis Sébastien Bourget. Je suis en compagnie de Frédéric Lefebvre. Alors, je vous souhaite une belle soirée et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de 100 commentaires ou presque.